Fantasy Moneyball, une présentation de la Fit Foodie. La Fit Foodie, c'est une entreprise d'ici qui fait des collations santé à haute teneur en protéines, mais qui goûte vraiment le dessert. Tout est sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné et chaque ingrédient est choisi soigneusement pour vous offrir la satiété et combler tous vos cravings. Vous commandez en ligne et vous récupérez ça facilement dans leur point de dépôt qui se situe à Trois-Rivières, Québec, Lévis et Drummondville. Bref, si vous aimez bien manger sans sacrifier le goût, allez voir leur vaste gamme de produits au lafitfoodie.com. Fantasy Moneyball, saison 1, épisode 13. Jean-François Hervé, comme toujours en compagnie de Jean-Philippe Marcoux. JP, semaine 1 qui est derrière nous, comment ça va?
Mieux depuis que la saison 1 est derrière nous, mais oui, ça va super, toi?
Ça va très, très, très bien, JP. Très content. Écoute, comme je disais, la semaine 1 qui est derrière nous, c'est le fun, ça fait changement. La saison de la NFL est vraiment commencée. Déjà, ça a été une semaine 1 quand même forte en rebondissement, beaucoup de surprises. Une semaine 1 digne d'une semaine 1. Beaucoup, 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 beaucoup de match-ups qui étaient durs à regarder. On voyait les gars qui étaient rouillés. Autant les règles, le changement des règles qui fait en sorte qu'il n'y a presque plus de starters qui jouent en pré-saison, c'est bien d'un point de vue blessure, prévention des blessures, etc. Autant que j'ai l'impression, JP, je dis « j'ai », mais je pense que c'est répandu à travers tous les amateurs de ce sport-là, ça paraît que les gars sont rouillés en début de saison d'un premier match.
Oui, puis il y a beaucoup d'installations de nouveaux systèmes, puis on avait fait un gros avertissement là-dessus la semaine passée, mm-hmm. puis je pense qu'il y a des gens qui ont déjà oublié. Ouais. Là, je ne parle pas de nos auditeurs qui sont brillants et allumés. Là, je parle du consensus des poolers de fantasy partout sur la Terre. Oui, effectivement, les games pré-saison, ça a un impact, mais je te dirais beaucoup plus, c'est les nouveaux systèmes, puis c'est de plus en plus complexe aussi, puis c'est difficile de déjouer des défensives. Ils ont toutes vu déjà. Fait que oui, ça a tellement paru, ça a fait pitié dans bien des matchs, mais écoute, c'est fait.
Très hâte de passer à travers un peu tous ces matchs-là, puis surtout de parler des joueurs qui ont déçu, des joueurs qui ont surpris. Quoi faire de ces différentes performances-là? Avant de débuter, un petit tour d'horizon des blessures, des nouvelles de la dernière semaine qui sont significatives au niveau fantasy. D'abord, un de nos favoris, ton favori JP, un joueur qu'on a qualifié de talent générationnel à la position, Brock Bowers, qui n'a pas terminé le match contre les Patriots.
Il était sur une lancée exceptionnelle.
Reprenait là où il avait laissé même.
À moins que je me trompe, sa semaine 2 n'est pas en péril pour l'instant. Donc, à suivre. Ayez un plan B si jamais. Tu n'es pas obligé de waver tout de suite quelqu'un, mais ayez l'œil ouvert si vous avez Bowers.
Et un autre que tu adorais, JP, qui était peut-être même quasiment ton target numéro 2 à la position, George Kittle. Dans son cas, par exemple, on parle d'une absence un peu plus à long terme, un petit peu plus inquiétant, là.
Oui, c'est le IR, si je ne me trompe pas. Donc là, vous êtes dans la merde si vous avez Kittle. De là aussi, les gens qui ont mis beaucoup de fab sur Jawan Johnson. oui, fait que c'est triste. Lui aussi, je pense qu'à peu près en un quart, il était rendu à 10 points.
Oui.
Donc,
lui aussi qui reprenait, lui avait laissé. Ouais. Ça l'a dit, JP, on en a parlé un peu dans sa carrière. George Kittle, c'est beaucoup de up and down. Une bonne saison, une moins bonne saison, une saison complète sans blessure, une saison où est-ce qu'il va se blesser. C'est un gars qui a quand même eu quelques blessures depuis le début de sa carrière. Donc, on espère que ce ne sera pas trop à long terme, qu'il va revenir et qu'il va être capable de jouer jusqu'à la fin de la saison. Il y a aussi un autre joueur qui avait quand même beaucoup de targets, qui avait un gros match avant de sortir. Sur blessure, Drake London des Falcons.
Oui, lui aussi, je pense pas que c'est... Lui, c'est pas grave, mais il était sur une lancée, c'était l'homme de...
Le alpha, clear-cut, là.
Vraiment, puis là, le ballon a été transporté partout de Pitts à Ray McLeod et Washington, un wide receiver que la plupart des gens ne connaissaient pas. Ça m'inquiète pas trop. Il y a d'autres choses qui m'inquiètent, par contre, chez les Falcons. On en parlera plus tard.
Oui, très hâte de t'entendre. Xavier Worthy. Les Chiefs, un contact très, très, très solide avec son coéquipier Kelsey. Les deux gars se sont jamais vus et ça n'avait pas l'air de faire du bien dans son cas. Lui aussi, on parle d'une absence possiblement pour quelques semaines. Bref, ça va pas bien pour les receveurs des Chiefs.
Ouais, s'il n'y a pas d'opération, il pourrait revenir relativement bientôt. S'il y a une opération, ça pourrait être la saison qui manque au complet. Ouais.
Puis j'ai entendu entre les branches, là, semble-t-il, que, mettons qu'il joue le prochain match, il y aurait quelque chose comme 50% des chances de réaggraver sa blessure à l'épaule. Fait que rendu là, tu sais, J'ai l'impression, en tout cas, d'un point de vue fantasy, même s'il est là la semaine prochaine, ça va plus être comme decoy qu'autre chose. Moi, je le laisse sur mon bench. Même s'il est là, ouais, je start pas ça.
D'accord,
je
avec
pas
toi.
Du côté, il y a un échange quand même aussi, la semaine dernière, qui a eu lieu. Tank Bigsby, qui a été échangé des Jaguars aux Eagles. Donc, un petit peu plus de clarté au niveau du backfield des Jaguars.
Oui, donc Travis Etienne, pour l'instant, semble avoir le champ libre. Puis un petit comité pour le deuxième poste avec le Quint Allen et Bishol Tootin.
Bishol Tootin.
Donc, tu sais, certaines personnes pensaient que Bigsby allait être le lead back à Jacksonville. On a eu la réponse assez rapidement. Philadelphie n'ont pas un grand rôle à y donner. Là, si, aucune crainte pour Will Shipley et encore moins pour Saquon Barkley. Puis aussi, une nouvelle qui vient de sortir, GF, là, c'est comme là. Brock Purdy,
ouais,
devrait manquer de 2 à 5 semaines. Je viens de voir ça popper sur, okay, mon téléphone.
Officiellement, d'accord. Deux. J'avais noté ici qu'il serait peut-être absent de 3 à 5 matchs, mais là, 2 à 5 semaines, donc 2 à 5 matchs. Quand même.
Supplémentaire.
Pauvre 49ers, il y a quelque chose. Moi, sérieusement, je suis le propriétaire des 49ers. Je considère déménager, bâtir un stade ailleurs. Je ne sais pas si ils sont au-dessus d'un ancien cimetière quelconque où il y a. Mais il y a des, clairement un mauvais sort qui s'achante sur ce club-là année après année au niveau des blessures.
Il y a un mauvais sort, mais écoute, mon background en kinésiologie va enfin servir dans ma vie. Mais
c'est la faute du training staff, dans le fond.
Ben, je te disais, pour les running backs, d'année après année, il y a une certaine raison dans la préparation physique pour les blessures. Okay. C'est sûr que tu ne peux pas prévenir une commotion cérébrale dans un misread d'un blitz puis que le carré se fait frapper. Je ne dis pas que c'est le cas de Purdy, mais comme il y a des blessures qui sont relativement évitables et surtout des récurrences de blessures ligamentaires qui sont prévenables. Puis de là aussi, je ne rentrerai pas dans des noms, mais certains, parce que j'ai un petit peu plus de contact dans la Ligue nationale de hockey, mais certains trainers qui ont été mis dehors en, ouais, raison des récurrences, des blessures des joueurs puis des mauvaises récupérations. Fait qu'il y a vraiment un rôle à jouer là-dedans, mais aujourd'hui, ce n'est pas un épisode spécial là-dessus, mais je ne serais pas fermé à en parler plus en off-season de ça.
On pourrait en reparler longtemps. Puis tu sais, d'ailleurs, depuis plusieurs années, depuis, je pense que le CF Montréal, anciennement à l'Impact, a fait le saut en MLS. C'est un club, là, je vais en voir vers le soccer, mais ça reste un bon exemple de ça. Année après année, c'est un club qui est affligé par les blessures. Puis à un moment donné, c'est bien beau dire, oh, on n'est pas chanceux, faut que tu te poses des questions au niveau de ta préparation physique, puis tes trainers, puis tu sais, c'est pas juste à eux que ça revient la responsabilité, mais à un moment donné, là, en tout cas, à moins de croire, d'être hyper superstitieux, il y a peut-être un problème de préparation, etc. Faudrait peut-être se regarder un peu dans le miroir.
Oui, oui, puis aussi, il faut regarder la récurrence d'année en année. Fait que c'est normal qu'une année X, tu sois l'équipe la plus blessée dans ton sport, mais d'être tout le temps dans le,
année après année,
dans le dernier tiers en termes de santé, année après année, ça en dit long.
Oui. OK, bon, fait que c'est ce qui fait le tour des nouvelles d'importance par rapport aux blessures, échanges, etc. de la dernière semaine. Au niveau du Patreon, un petit mot encore une fois pour vous dire, bien d'abord, merci. On est maintenant presque 30 personnes dans la communauté, donc pas une immense communauté, mais une communauté tissée serrée et qui grandit de jour en jour, de semaine en semaine. Juste pour vous donner un petit aperçu, de la semaine dernière, on a proposé des start set advice à tous les abonnés. On a répondu à des questions un petit peu plus précises. On a proposer nos must pour les waivers. Il y aura encore une fois des questions-réponses cette semaine. Donc vraiment, là, à chaque semaine, vous pouvez vous attendre à être traité aux petits oignons et à vraiment recevoir des conseils personnalisés pour vous aider à mieux performer avec vos équipes. Puis ben, il y aura aussi là, tout au long de l'année des petits épisodes exclusifs par-ci, par-là. Et si vous avez aussi du contenu que vous aimeriez qu'on approfondisse un petit peu davantage sur le Patreon, il y a des choses que vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez pas à nous en faire part, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos propositions. On veut l'améliorer, puis on veut bâtir cette plateforme-là pour qu'elle réponde le mieux à vos besoins. Donc, votre feedback est extrêmement important dans le développement de cet outil-là. Encore une fois, patreon.com/fantasymoneyball. Allez vous abonner. Il reste encore des places Early Bird. Donc, cette semaine, puis je réalise, là, j'ai même pas, c'est un peu, on n'en a pas parlé, mais ça tombe un peu sous le sens. Cette semaine, on fait un retour sur la dernière semaine dans la NFL. Et ce qu'on va vous proposer un peu à chaque semaine, c'est une section « On panique ou on s'excite ». Dans le fond, tu sais, chaque semaine, vous savez, il y a des gars qui vont exploser, qui vont avoir des grosses performances, qui vont décevoir. Particulièrement en début de saison, c'est difficile, et essentiellement, quoi faire. Tu sais, c'est difficile de savoir quoi faire avec cette information-là. Est-ce que, exemple, Quentin Johnston, est-ce que c'est le nouveau wide receiver 1 des Chargers, puis il va avoir une saison de 1200 verges, 10 touchdowns, ou est-ce que c'est un flou, c'est un bon match, puis ça va revenir à la normale? Est-ce que faut s'exciter de ce qu'on a vu de Travis Etienne avec les Jaguars? Que faire de ces performances-là? En début de saison, des fois, c'est extrêmement difficile. On s'excite, on panique, pas toujours pour les bonnes raisons. Donc, on vous essaie de vous aider un peu à démêler tout ça. Donc, la formule qu'on va utiliser, c'est qu'on va revenir sur chacun des matchs. JP va vous proposer une analyse, va vous parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a trouvé intéressant dans ces matchs-là. Mais plus précisément, on va vraiment revenir sur des performances de joueurs individuels, les performances qui ont retenu l'attention. Puis, on va essentiellement vous dire, est-ce que c'est une performance à retenir? Est-ce que c'est un signe de d'autres choses à venir? Ou est-ce qu'au contraire, vous devriez prendre ça avec un grain de sel? On s'entend, si Ja'Marr Chase vous fait 10 catchs pour 150 verges, on n'en parlera pas. On s'attend à ce que Ja'Marr Chase performe comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment un peu plus de parler des joueurs autour desquels il y a quelques points d'interrogation, que le statut n'était pas clair, qu'il y avait beaucoup d'attentes et qui déçoivent, etc. Donc, voilà, JP, je sais que tu avais aussi une petite mise en garde à faire ou un petit message d'intérêt général. Là. Attachez-vous bien à vos chaises, là, JP. Il est sur le bord d'exploser, je pense.
Écoute, JF, une chance qu'on fait ça jeudi. Si on avait fait l'épisode lundi et même mardi, j'étais en tabarnak de voir tout ce que je disais, tout ce que je voyais partout par rapport à la fin de semaine. Écoute, nos membres Patreon et tous nos auditeurs le savent, nous ont écoutés, c'est des gens brillants, les questions sont brillantes. Je parle pas d'eux, moi je parle de la communauté football.
Les épais qui soit nous écoutent pas encore, soit sont pas encore abonnés au Patreon.
Exactement. Mais écoute, on avait averti que c'était ça les premières semaines dans NFL, que c'était un peu free-for-all. Tu as des défensives ultra fermées avec des offensives qui exécutent mal. Puis je te dirais que, outre les games prime time qu'on a eu cette semaine et les Jets contre les Steelers, toutes les autres games, faut les crisser dans les vidanges. La semaine 1 n'existe pas. Il y a quelques constats, fait panique où on s'excite qu'on va faire. Mais autre que ça, on s'en fout, on s'en contrefiche. J'ai tellement eu de commentaires ou des demandes d'échange que je me dis, ça se peut pas. T'sais, ça se peut pas s'emballer comme ça. Fait que je voulais juste de dire à tout le monde, relaxez, c'est correct, c'est juste une semaine. Ja'Marr Chase va finir comme un wide receiver numéro 1, peut-être même comme le receveur numéro 1. Même principe pour AJ Brown, même principe pour d'autres joueurs. Mais oui, il y en a qu'il faudrait un petit peu paniquer. De là aussi le segment, puis je vais te rendre à César ce qui revient à César. C'est ton idée, ce segment-là. Je trouve ça crissement bon, JF, de faire ça parce que au final, au travers de la saison, on laisse les émotions nous gagner. Fait qu'on est des marchands de pragmatisme au repêchage et juste avant. Puis là, la saison commence. Puis là, c'est que des émotions. Mon club, c'est de la merde. Je veux tout échanger. Si ça, tel gars, il est donc bien cute, il est beau, il court vite, je le veux. Comme on laisse aller les émotions. Puis je trouve ça stupide. Puis c'est le mélange parfait pour justement ne pas faire les séries et ne pas gagner.
Exactement. Puis moi, je me rappelle, JP, c'était ma première année, ou ma deuxième année en fantasy. J'avais repêché un receveur des Bears de Chicago qui était à son année recrue.
Allen Robinson.
Ashlyn
Jeffrey.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Ashlyn Jeffrey, il avait mal commencé l'année. Il avait ses deux trois premiers matchs, il n'avait rien fait, des donuts. Moi, je me l'avais repêché. Gros hype. Hey, il se passe rien. Il est à peu près pas targeté. Je le drop pour un gars que j'oublie. Il se fait ramasser ses waivers, puis il a été un league winner. Il a fini top 25 wide receiver.
Si je me souviens bien, puis je vais aller regarder pour le fun parce que je me souvenais même plus de son existence, mais c'était une année quasiment similaire à Marvin Harrison Jr. Fait qu'imagine avoir ça sur les waivers. Et...
Exact.
Ouais, Alshon Jeffrey.
Alshon Jeffrey. Et voilà. Boy. Voilà. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça fait plus de 10 ans déjà. Mais, puis tu sais, d'ailleurs, ce que tu as dit, JP, particulièrement vrai pour les joueurs recrues qui, des fois, mettent du temps à s'acclimater à la NFL, mettent du temps à prendre leur place. On a une couple de noms en tête. J'ai hâte qu'on passe à travers ça. Donc, sans plus attendre, on commence avec notre retour sur les matchs de la dernière semaine et notre segment qu'on espère va devenir un flagship de Fantasy Money Ball, le segment « On panique ou on s'excite » Eagles Cowboys GP.
Bon, est-ce qu'on panique pour AJ Brown et Devante Smith? Pas en tout. C'était une game assez spéciale. On le dit, tout le monde s'attend à ça. Les Eagles, parfois, ça va que se passer au sol. C'est tout à fait normal. Fait que paniquez pas si vous avez ces deux gars-là. Par contre, soyez conscient que ça peut arriver. Fait que
ça.
Au final, la saison va terminer et AJ Brown va paraître être un bon receveur de passe. Même principe pour Devante Smith. Par contre, de semaine en semaine, ça se peut que ça fasse mal comme ça. J'ai rien vu de nouveau et de concret des Eagles à parler. Pour les Cowboys de Dallas, la grosse question que les gens se posaient, puis même limite qu'on se faisait obstiner, toi puis moi,
ouais.
Pour qui allait l'aider comme running back, c'est Javonte Williams, c'est clair, net et précis. Jaden Blue n'a pas été habillé, by the way. 15 courses, 54 verges au sol et 2 touchdowns, 2 catches, 10 verges. Donc, ce n'est pas une stat line exceptionnelle. De là, le segment, on panique, on s'excite. Est-ce qu'on s'excite pour ça? Oui et non. On s'excite du fait que c'est le lead back, mais 15 courses, 54 verges, s'il n'avait pas eu de touchdown.
C'est dégueulasse. Ouais.
Et voilà.
C'est ça.
Fait que les touchdowns, c'est la statistique la moins, pas précise, mais celle qui est la moins récurrente dans le temps. Je ne sais pas si ça se dit bien, mais.
C'est la plus difficile à prédire. Ouais. C'est la moins prédictible.
Exactement. Ouais. Exactement. Donc, par contre, on est heureux que c'est une offensive qui devrait avancer, puis c'est lui qui devrait avoir les goal lines. Fait qu'un plus un égale deux. Fait que félicitations à tous ceux qui l'ont eu. Puis sinon, moi, j'ai rien d'autre à dire sur ce match-là parce qu'on pourrait. Jeff, on pourrait parler d'une demi-heure de chacun des matchs.
Ah ouais, c'est ça.
Le jour qu'on a 5000 abonnés Patreon, on va le faire.
Ouais.
Mais pour l'instant, c'est pas mal ce que j'ai à dire sur le match.
Excellent. Moi, je te dirais, JP, seule chose que je rajouterais, c'est vraiment un match qui était plus serré, je pense, que bien des gens s'attendaient. Les Cowboys sont pas en train de te dire qu'ils vont compétitionner pour le titre de division, mais je pense qu'ils ont impressionné. Ils ont été beaucoup plus tenaces, coriaces que les gens s'attendaient.
Surtout défensivement, ouais. Simbonac. Ouais. J'ai Puis il y a bien des défensives, on va y aller par-ci par-là dans les analyses, mais bien des défensives qui m'ont agréablement surpris, et les Cowboys s'en est une.
Très, très cool. J'ai hâte de voir la suite du côté de cette attaque-là. Ensuite de la saison a débuté avec ce match-là le jeudi. Le vendredi soir, on avait un match au Brésil entre les Chiefs et les Chargers, un match qui a quand même été un festival offensif.
Oui, et un des premiers joueurs que je te dirais qu'on pourrait officiellement dire on s'excite, c'est Justin Herbert. Oui.
On a vu, JP, le Justin Herbert des deux premières saisons dans la NFL.
Exactement.
C'est ça qu'on a vu.
Tu sais, oui, le 28 points fantasy, c'est quelque chose, mais juste vous dire d'avance, j'ai regardé littéralement tous les matchs. Tu sais, quand on parle d'une analyse, les points, c'est quelque chose, mais moi, c'est plus le comment qui m'intéresse pour savoir si on peut ravoir ça dans le futur. Mais bref, il jouait du Christy de bon football. Mais comme vraiment. Vraiment, il spreadait le ballon partout, en confiance exceptionnelle.
Exact, ouais.
pour aussi courir quand il n'y avait aucun read de bien. Certaines personnes pensent que Madison Beer a un impact sur son jeu.
Écoute,
mais je ne rentrerai pas là-dedans.
Écoute, en tout cas, on ne rentrera pas dans les détails, mais je suis capable d'imaginer que ça peut avoir un impact positif.
Peut-être que Bryce Young est à une Madison Beer de...
On y souhaite, on y souhaite.
Mais oui, puis sinon, pour revenir à ce match-là, les blessures, fait que la grosse blessure de Worthy, c'est peut-être le plus gros highlight pour les Chiefs de Kansas City. Sinon, Isaiah Pacheco, ça m'étonne zéro, mais a eu exactement le même load que Kareem Hunt. Que ce soit au sol ou par la passe, exactement le même rôle. Et de ce que j'ai vu, Kareem Hunt est terriblement plus brillant pour les courtes courses à l'intérieur de la ligne. Donc, ça l'indique, selon moi, que s'il y a un goal line à avoir à Kansas City puis que les deux sont en santé, ne sont pas essoufflés, c'est Hunt qu'ils auraient. Fait que si vous avez Pacheco, ça, c'est mon premier gros panique. C'est panique solide parce que, on l'avait classé dans notre top 30 running back. Par contre, c'était avec le...
C'était pas un target. On recommandait pas
non,
au gars de le
Non,
repêcher,
mais comme
là.
on pouvait pas ne pas l'avoir là, d'un coup, qu'il aille le lead. Ouais. Le lead role, mais il l'a pas en tout, mais comme vraiment pas. Puis c'est un joueur qui me déçoit beaucoup, puis il m'a pas surpris positivement dans ce match-là.
Puis on va le dire d'ailleurs, puis ça vient pas teinter ton analyse, mais à la base, c'est pas ton porteur de ballon préféré.
Non.
C'est un gars que tu trouves qu'il y a certaines lacunes. Donc, s'il n'y a plus 70% des touches, il est rendu dans un comité, la valeur est.
Oublie ça.
Déjà que c'est un gars qui attrape en plus très, très peu de ballons, Pacheco.
Ouais. Puis là, on a vu quelque chose d'encore plus rare qu'une étoile filante. On a vu Hollywood Brown, fait que Marquise Hollywood Brown jouer dans la slot. Juste vous dire, si vous ne regardez pas le football, Marquise Hollywood Brown, c'est un genre de DeSean Jackson, ouais, joueur extérieur. Speedster, là, exactement, mais super bon dans son rôle. Mais étant donné que Rashee Rice n'est pas là, que Travis Kelce traîne son piano et que Worthy était en dehors du match, on a inséré Hollywood Brown à l'intérieur. C'était vraiment magnifique à voir. Pour vrai, regarder ses tapes, puis félicitations à lui, il n'avait pas l'air d'avoir trop peur, mais tu vois qu'il n'est pas à sa place. Mais ça a donné 16 targets. 16 targets. Pour 10 catches, 99 verges, qui est vraiment un start line à la Rashee Rice.
Ouais.
Donc, si Worthy est out, est-ce que Hollywood Brown va jouer là? Je ne sais pas. T'sais, Juju Smith-Schuster est là, il va peut-être avoir ce rôle-là. Mais je pense que Mahomes va encore une fois passer le ballon un peu partout. Fait que j'ai l'impression qu'on peut, quelques personnes peuvent s'emballer avec ces receveurs-là, mais calmez-vous un peu, puis je pense qu'on va avoir quelques réponses la semaine prochaine. Je pense contre les Eagles, ça va être vraiment intéressant. Pour les Chargers, on a vraiment, mais vraiment un comité à trois pour les receveurs de passe. Puis oui, j'ai mis en gros rouge, en mode panique pour Ladd McConkey. Vous savez, c'était un de nos boss cette année. Je l'aime beaucoup. Mais écoute, c'est un comité à trois. Keenan Allen jouait dans la slot. Mm-hmm. Quentin Johnston avait de l'air de Randy Moss. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il a tellement gagné en explosion et semble savoir qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. c'est tout à fait nouveau. Donc, Ladd McConkey, qui peut-être avait une valeur de 100$ avant le début de la saison, là, pour certains, peut-être rendu à 80. Moi, je te dis qu'il est peut-être à 50. Fait que c'est le temps de capitaliser si vous l'avez.
Très intéressant. Puis effectivement, Quentin Johnston, écoute, on s'entend, un joueur est pas. Il n'y a rien qui empêche un joueur de s'améliorer, hein, de faire des steps en avant. Ça se peut. Il y a des gars qui vont stagner plus vite que d'autres. Dans son cas, il ne faut pas oublier que c'était un choix de première ronde. C'est un gars qui avait quand même du talent, qui avait quand même des habiletés. Fait qu'écoute, on verra pour la suite. JP, moi, la seule chose que je rajouterais, là, je regarde ça un peu pour les Chiefs. Bon, c'est sûr que la blessure de Worthy vient encore plus renforcer cette impression-là, mais à la lumière de ce match-là, tu sais, je pense que c'était legit de se poser des questions par rapport au rôle que Rashee Rice allait avoir quand il allait revenir. Moi, je regarde ce match-là, il n'y a aucun doute dans ma tête qu'il va avoir un rôle prépondérant au cœur de cette attaque-là. Il est très, très important pour cette équipe-là.
On le dit juste à vous, puis dites-le à personne. C'est le plus beau trade target, d'après moi, en 2025, Rashee Rice. Peut-être même le plus gros league winner. Avoir justement ce match-là, ça en dit long. Tu as tellement raison, JF, puis merci de l'avoir dit, mais on ne dit à personne d'autre.
On garde ça secret, les gars. OK, bon, très intéressant, puis vraiment un beau match, un des matchs les plus intéressants, je pense, de la fin de semaine, ouais. Chiefs-Chargers. Ouais. Ensuite de ça, bon, on passe d'un des matchs les plus intéressants, on s'en va vers le très palpitant duel entre les Dolphins et les Colts. Pas facile pour les Dolphins.
Ouais, peut-être la pire offensive dans la NFL. C'est l'équipe qui m'a le plus choqué, même si mes attentes étaient assez basses. Je te dirais panique pour tout le monde qui porte ce chandail-là. C'est pas compliqué. Puis même la défensive jouait de façon totalement inintéressée. Fait que quand je vous disais de, en parenthèse, crisser dans les vidanges tous les matchs de la semaine 1, mais même principe aussi pour les performances des joueurs des Colts. Il n'y avait aucune défensive devant eux. Ouais,
partez pas en peur sur Daniel Jones.
Non, ni Michael Pittman. Tyler Warren, premier quart, ils l'ont beaucoup utilisé. Moi, je pense qu'il va être plus utilisé dans les vrais matchs de football contre une vraie opposition. Mais écoute, prendre ce match-là avec un grain de sel et les Dolphins s'en vont nulle part. Semaine prochaine, si je ne m'abuse, ils reçoivent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui a été une terrible offensive. Si les Dolphins ne performent pas en tout, offensif ou défensif, c'est terminé pour eux. Moi, je pense que c'est des candidats pour le premier pick overall.
D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est une semaine, ils ont eu l'air plus fou que les Saints ont eu l'air dans leur affrontement.
Ah, mais solide. Puis surtout, manquer de talent, c'est une chose, mais manquer de volonté puis de drive, c'en est une autre. Fait que même si tu te fais péter par 20 points...
T'avais l'impression que l'équipe au complet avait abandonné après 100%. Le premier quart.
Ouais.
C'est vraiment ça. Puis on s'entend... La défensive des Colts, c'est peut-être pas mauvaise, pas dégueulasse, mais c'est pas non plus...
Le plan de match des Dolphins, c'était... Il a lancé une interception au-dessus de Tyreek Hill, Tua, là, que j'ai vu, je suis comme... N'importe qui aurait mis une défensive de même devant lui pour ce genre de setup de jeu-là. En tout cas, c'est tellement mal géré, c'est mal fait, fait que c'est terminé. désolé. C'est ouais. terminé, Dolphins.
Il y a un très bon candidat à être le premier coach congédié cette saison. Mike ouais. McDaniel, honnêtement, ça risque pas de faire long feu. Panthers, Jaguars, un autre match un peu à sens unique. Certains qui pensaient que les Panthers... ben là, en tout cas, c'est pas fini, c'est une semaine. Mais disons que pour les Truders, les gars qui croyaient en Bryce Young, croyaient en les Panthers pour prendre un step, puis moi, je vais le dire bien honnêtement, je trouvais que c'était une offensive intéressante qui allait, sans dire qu'elle allait être top 5 NFL, j'ai voyé un peu progresser. On a revu le Bryce Young un peu erratique dans ce match-là. Ça n'a pas été facile du tout pour les Panthers. J'essaie d'être gentil, mais ouais. ouais.
Puis un autre match à mettre dans les poubelles. Bryce Young, 18 en 35 pour 154 verges, un touchdown, deux interceptions. Et je te dirais que ces stats-là ont l'air belles par rapport au jeu de Bryce. C'était vraiment, ça faisait pitié. La défensive de Jacksonville n'est pas une top def de la NFL. Elle avait l'air de tout ça en fin de semaine, mais c'est pas pantoute le
c'est
cas.
C'est vrai. Elle avait l'air d'une def top 5 NFL.
Et la def des Panthers, c'est une pass wall. De là aussi, de revenir sur Travis Etienne, qui a quoi, je m'en souviens plus. Là.
16 courses, 143 verges, ouais. 3 catchs pour 13 verges.
Dont une de plus de 70 verges. Mm-hmm. Ça dormait au gaz défensivement. T'sais, mettez ça dans les poubelles. Là. Exagérez pas sur Travis Etienne. En tout cas, quand j'ai vu ce match-là, tout est à mettre dans les poubelles. Tu sais, Travis Hunter, on voulait travailler, donner quelques targets, ça allait fonctionner, c'était bien. Brenton Strange, première demi, il s'en allait pour avoir quasiment un match de 20 points. Ils se sont calmés au niveau des passes parce que c'était facile de courir sur les Panthers. Même principe avec Brian Thomas, on n'a pas eu de besoin. Fait que tu sais, paniquez pas avec lui, c'est tout.
Ça, il y en a, hein, j'en voyais sur les réseaux sociaux, ouais. là. Hey là, voyons donc, les ceux qui ont repêché Brian Thomas, voyons donc que vous attendez, vous n'avez pas vu ça venir. Ils ont pêché Travis Hunter, deuxième overall. C'était certain que ça allait diminuer sa part du gâteau. Soyez pas surpris de ça. Dans les faits, il n'y avait pas besoin de Brian Thomas. Il y avait pas le match est gagné quasiment tout seul, honnêtement. Fait que
exactement.
Faut en prendre et en laisser. Puis malgré ça, Brian Thomas a quand même réussi à aller chercher un joli petit touchdown sur un beau trick play, un beau reverse bien exécuté. Fait que
pas de panique.
Non. OK, Falcons, ah oui, attends un peu. D'ailleurs, avant de passer au prochain, au niveau des Panthers, faut qu'on parle de Chuba Hubbard, GP. Ne serait-ce, hein, il y a des gars, je fais exprès, s'il y en a qui nous écoutent, vous vous reconnaîtrez, mais c'est pas un comité, là. C'est clair, c'est net, c'est précis. S'il y en a qui avaient des doutes encore, tu sais, il se faisait complètement traverser. Malgré ça, ils n'ont à peu près rien donné à Rico Dowdle. C'est encore Chuba qui se faisait force feed. S'il y avait des doutes là, qui étaient encore là, je pense que c'est assez clair après ce match-là que c'est le backfield de Chuba Hubbard.
C'est un bel ajout, GF, parce que si dans un match que tu te fais péter comme ça, il apparaît 16 courses au sol. Écoute,
c'était la même chose l'an dernier. Ah, aussi.
Il est bulletproof, que ce soit dans une victoire ou une défaite. Voilà. C'est ce qu'on aime aussi pour les running backs. C'est un peu
100%.
Un peu comme Chase Brown et Alvin Kamara. On n'est pas dans un mode de Jonathan Taylor dans cette position-là. Il ferait beaucoup plus pitié qu'un running back qui utilisait à toutes les sources. Fait que les haters, parce qu'on en a.
Ah, il y en a. Y en a.
pour Chuba Hubbard. Mais écoute, calmez-vous. Puis avec ce qu'on a vu en fin de semaine, on a besoin de deux mains pour compter les vrais lead backs dans NFL. C'en est un.
Merci, JP. Ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Ça fait ma journée, ça. Ensuite de ça, Falcons, Buccaneers.
OK, drôle de match. Ça, c'est peut-être le match que si on regarde les stats, ça dit une histoire complètement différente de qu'est-ce qu'on voit dans ce match-là. Première chose, Michael Penix, 27 à 42. 42 passes pour 298 verges et un touchdown que ma grand-mère aurait réussi aussi, qui est une petite passe sur le côté à Bijan Robinson et... la défensive des Buccaneers se pensait devant la TV en regardant Occupation double. Ça dormait au gaz assez solide. Fait qu'au final, le stat line de Bijan est overrated un petit peu par rapport à ce jeu-là, mais c'est pas grave, c'est Bijan. Fait qu'on ne fera pas un panique ou un sexit avec Bijan. Mais Michael Penix n'a pas joué du grand football. J'ai aimé qu'il allait souvent au deuxième read, mais écoute, c'était pas mon QB, ça l'est pas plus. C'est juste une semaine. Mais je ne trouve pas qu'il joue du grand football. Et je vais te dire aussi, là, niveau, je vais rester avec les Falcons, un joueur qui, niveau football seulement, m'a déçu, Drake London n'est pas un wide elite. Je le répète, Drake London n'est pas un wide elite, mais pas pantoute. Fait que là, je suis prêt à recevoir des tomates, mais comme je regardais la séparation avec la défensive des Bucks qui ne jouait pas un grand match, c'était pas tant fort que ça. Là, je vais aller aux Buccaneers. Mike Evans, moi, je trouve qu'il a perdu un step. Là. Je le trouvais assez lent sur le terrain. Je trouvais ça pas fort fort. Fait que ça, c'est un autre gars que ses stats, c'était pas si pire, mais je trouve pas qu'il a joué un bon match. Baker Mayfield semblait un peu perdu en début de match. Ouais. Ça paraît que Chris Godwin n'est pas là et qu'il n'y a personne qui joue l'intérieur. Mais bref, puis Irving a été sauvé par un touchdown, puis lui aussi, comme il n'y avait pas d'espace, c'est pas qu'il a mal joué, il n'y avait pas d'espace, puis la défensive des Falcons n'est pas si débile que ça. Et la stat line de la fin de semaine, c'est Emeka Egbuka, son premier match en carrière, qui a 2 touchdowns avec 4 catches, 67 verges. Mais encore là, comment qu'il l'a fait, je ne sais pas comment te le dire, JF, mais tu sais, Keenan Allen à 30 quelques ans aurait fait la même chose. Il n'a rien fait de magique, il a fait ce qu'il devait faire. On ne va pas y enlever, mais c'était rien d'explosif. On n'a pas l'éclosion d'un Brian Thomas que tu dis, oh my God, qui a mangé la défensive à lui tout seul. Il y a un de ses touchdowns, c'était un trip, c'était 3 receveurs de passe d'un côté. Il n'y a aucune aide de safety, puis tu as un croisement des corners, puis il y en a un qui dort au gaz, il se fait pogner là-dedans, fait qu'avec Buka et tout ça dans la zone. T'sais, au final, c'est un beau move au niveau football, puis il a fait sa job lui aussi, Baker aussi, mais comme, écoute, il n'a rien fait de magique. Puis ma note que je me suis marquée, profitez-en en Simonac avant que Chris Godwin arrive, parce que c'est ça qui manque au box. Par contre, tout un trio de receveurs de passe, ça va vraiment aider Baker. Moi, je pense que d'ici l'arrivée de Godwin, ça risque d'être tough pour les Buccaneers.
Mmh. Puis tu vois, Buccaneers, c'est un bon exemple d'une équipe qui avait de l'air. Les synchronismes n'étaient pas là, on était rouillés. C'était une équipe là,
solide.
On a de la misère à restarter la machine à la semaine 1. C'était vraiment pas facile. Puis je suis vraiment content que tu dises ça sur Michael Penix parce qu'effectivement, tu regardes sa stat line. Puis même sur des applications comme Sleeper, là, tu regardes l'analyse de sa performance, puis c'est comme hey, 300 verges, grosse performance. Mais quand tu le regardais jouer, avant le quatrième quart, il n'y a rien qui se passait, il était pourri. Donc, un bien meilleur joueur de football que moi. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que lui au football, juste pour le mentionner, mais il n'y avait pas l'air d'un QB élite, même. En tout cas, il y avait à peine l'air d'un QB NFL avant le quatrième quart.
C'est avec toi.
Bref. OK, Bengals-Browns, ça c'est un des affrontements qui a probablement fait paniquer le plus de gens après l'affrontement entre les Packers et les Lions. On s'attendait à un festival offensif. Finalement, ça a été un affrontement extrêmement défensif. Victoire des Bengals à l'arraché 17-16.
Oui, c'est un match qui m'a donné beaucoup de difficultés à regarder, bien honnêtement. Mais je vais dire une phrase que, si je ne m'abuse, Joe Burrow a dit l'an passé ou l'année d'avant.
Ouais.
Chill.
Chill,
bon.
Ouais.
Fait qu'on relaxe, là. C'est un match. Regardez bien ça, Jamar Chase, 10 catchs, 160 verges, 2 touchdowns la fin de semaine prochaine. Puis les Bengals vont traverser les Jaguars.
T. Higgins, genre 2 touchdowns, ouais. 8 catchs, 95 verges. Jamar Chase, 10 catchs, 165 ouais. verges, 1 touchdown. Là, c'est genre ça qui nous attend.
C'est toujours... J'ai regardé, t'sais, vous savez, je gage et je gage encore. J'ai regardé tous les matchs de Joe Burrow et des Bengals à Cleveland. À chaque année, on a des résultats similaires à ça. C'est toujours difficile. Fait que je m'attendais à ça. J'avais aucun Bengals dans mes line-up, à part quelques Chase Brown. Et je m'attendais à ça. Les Browns, je m'attendais exactement à ça. Une offensive terriblement overrated parce que les gens ont vu deux matchs explosifs de Joe Flacco qui ont des mauvaises défensives dans les dernières années. Finalement, il est ordinaire, si on pourrait dire poche. Fait que toutes les pass catchers, ça faisait pitié. J'ai bien aimé Cedric Tillman jouer avec beaucoup plus d'explosion et de drive que Jerry Jeudy. Mm-hmm. Désolé, Jeudy.
Et Jeudy, ça faisait pitié. Ouais,
le plus gros panique, je te dirais, moi, personnellement, je ne vous dis pas de le faire. Moi, si je l'avais sur mon club, il serait dans les waivers, c'est David Njoku. Parce que la tarte des Browns est assez petite pour tous les receveurs de passe et tight end. Et là, en plus, tu as un tight end qui a autant de snaps pratiquement que lui, avec autant de catch et verges. Là, je parle de Harold Fanning. C'était sa première game en carrière.
Ouais.
C'est fou, là.
Ouais.
Et je te dirais, quand je l'ai vu jouer, c'était le même Harold Fanning que je voyais NCAA dans un calibre, dans une division vraiment de merde. Fait que moi, j'étais agréablement surpris. Puis c'est fou comment que c'est terminé Njoku à Cleveland parce qu'il finit son contrat cette année. Fanning, moi, je pensais que ça allait être le remplacement pour l'an
c'est
prochain.
Ça. Qu'il allait peut-être avoir une grosse saison, Njoku. Ça,
l'est déjà. Fait que le monde qui s'excitait pour Njoku, pour moi, c'est terminé, à moins bien sûr d'une blessure de Fanning, mais ça m'a vraiment frappé. Pour les running backs, mais Jerome Ford est ordinaire. La planète l'a enfin compris. Dylan Sampson, terriblement explosif, le petit running back recru de l'Université de Tennessee. 12 courses, 29 verges. Fait qu'on n'a pas un average pour écrire à sa mère.
Je pense que le backfield au complet cette journée-là, ils ont genre 2,2 verges par la course.
Mais c'est toujours ça, les Browns, vu qu'ils ont un système offensif terriblement ordinaire et.
Conservateur?
Ouais, mais non, mais qu'on voit venir. Je ne sais pas comment dire, mais.
Prévisible.
Exactement. Mais un 8-4, 64 verges pour Sampson, on aime ça. Mais vraiment beaucoup d'explosions et. Tout un duo de porteurs de ballon quand Judkins va arriver. Parce que c'est vraiment le yin et le yang. C'est exactement ce que Judkins avait avec Trevion Anderson à Ohio State. C'est exactement ça que les Browns vont avoir. Fait que tant mieux pour eux, mais il leur manque un corps arrière, des pass catchers, une O-line puis une défensive élite. Et ils vont être en business.
Une coupe de morceaux ici et là.
Exact.
Puis un truc que je rajouterais pour Harold Fanning qui m'a fait capoter là. Pratiquement les nombres de snaps qu'a Njoku. 9 targets, Njoku, je pense, en a eu 8. Et un autre truc aussi, pour t'illustrer à quel point qu'il faisait... Tu sais, c'était pas juste une histoire de game script. On avait l'impression, après ce match-là, qu'il fait partie du plan de match, Fanning. Ils ont même eu une course. Ils ont même designé un jeu, une formation wildcard, où il y a eu une course comme un fullback, comme il faisait d'ailleurs dans la NCAA. Ça a juste donné 3 verges. Mais pour moi, écoute, là, tu vas jusqu'à mettre ton tight end comme un fullback en formation offensive... Tu lui donnes une course, c'est pas anodin pour moi. Le gars fait partie du game plan très clairement.
Oui, parce que tu l'as préparé avant puis tu n'aurais pas fait ça avec Njoku.
Et voilà. C'est inquiétant. C'est pas, ça, même si d'une semaine à l'autre, il va peut-être pas autant être targeté, il va toujours venir manger dans l'assiette de Njoku. Njoku n'est plus seul.
Puis juste dire, parce que il y a des gens qui... Tout est tempéré dans ce qu'on dit. Il faut qu'on y voit avec nuance. Fait que c'est pas... aller waver Harold Fanning puis mettez-le comme tight end toute l'année. Parce qu'on l'a vu dans certaines ligues GF. 100%. Okay? Fait que c'est pas ça qu'on dit. Fait que la tarte était petite. Déjà là, on avait peur pour juste un tight end dans cette tarte-là. Maintenant, cette tarte-là est divisée en deux. Égal, aucun intérêt envers les deux. Mais l'an prochain, Fanning, oui.
Mm. OK. On se transporte maintenant vers l'affrontement entre les Raiders et les Patriots. Pas grand-chose à dire.
Non, c'était pas fort. Brock Bowers a fait du Brock Bowers encore. Les deux offensives, c'était du vrai Week 1 NFL. Qu'est-ce qui m'a terriblement déçu, c'est Drake May et l'offensive des Patriots, qui était vraiment... Il y a eu certaines années avec Tom Brady quand il n'y avait aucun pass catcher, ni rien de rien, que tu te dis c'est un système offensif, on dirait écrit par un enfant de 4 ans qui n'a jamais vu c'est quoi de l'offensive explosive. C'était tellement... plate, c'était tellement... Ça manquait d'équilibre. Ça, comme d'habitude, ça courait pareil, même si c'était 2e et 9. J'ai pas aimé ça. Ça m'a fait peur un peu pour le futur des Patriots, mais je l'avais mentionné, puis je m'attendais à ça un peu. T'sais, je commençais à refroidir sur les Patriots parce que je pense que ça va prendre du temps. Puis même Trevion Anderson, je suis pas sûr qu'on a le coaching staff, en tout cas cette année, pour l'utiliser à sa juste valeur et au talent qu'il amène. T'sais, c'est un peu... Trevion Anderson, c'est un Jameer Gibbs. Ça a pris pareil une bonne moitié de saison. C'est pas une saison complète pour les Lions pour l'utiliser comme il faut, puis pour que Gibbs nous donne du Gibbs. Fait que ça va prendre du temps, puis ça se pourrait que ça soit un petit bust finalement cette année. Mais je suis pas encore en mode panique. Okay? Fait que si quelqu'un là en ce moment, j'irais le chercher à rabais, mais on s'en reparle dans les prochaines semaines. Puis pour les Raiders, Ashton Gentry a fait le mieux qu'il pouvait. J'ai pas vu un gars ultra élite, by the way, là, niveau football, mais c'est juste un match, c'est son premier dans l'NFL.
Ouais. On va se calmer. C'était son backfield, il y avait pas. Exactement. C'est pas surprenant, mais quand même.
Non, mais ça, c'est une très belle surprise.
Le volume était là en tabarouette.
Puis tous les owners de Genty, c'était la raison pourquoi ils l'ont drafté si tôt. C'était.
Le volume que tu pensais qu'il allait avoir. Puis, ben, on le sait, volume is king au niveau des porteurs de ballon. Cards Saints maintenant, JP. Il y en a qui pensaient que les Cards allaient complètement traverser les Saints, ça allait être un walk in the park. Finalement, ça n'a pas été facile pour les Cards.
Finalement, Keller n'est pas bon. Oups, non, j'ai pas dit ça. Mais oui.
Il n'a pas bien paru dans ce match-là, en tout cas.
Non, mais pas en tout. C'est la def des Saints jouait de façon disciplinée, mais ça a toujours été ça, les Saints, à part quelques années. Mais en tout cas, on ne rentre pas là-dedans, on parle de fantasy. Kyler, terriblement ordinaire. Marvin Harrison Jr. a vraiment pris un step depuis l'an passé.
Je suis d'accord, ouais. Excitant de voir ça.
Manque un peu d'explosion, sauf. Je regardais jouer, je suis comme ça. Il faudrait qu'il aille suivre le même training que Quentin Johnston. Il manque un petit quelque chose niveau explosion.
Quentin Johnston, c'est sa troisième année en NFL. Exact. Là, fait que laisse un autre année à Marvin, puis ouais. Va peut-être être au niveau de Quentin.
Peut-être. Trey McBride, man, c'est ce qui est bon. T'sais, je ne l'ai pas dans ben des clubs, mais il est vraiment solide. La note qu'on s'est marquée, c'est Trey Benson qui est dans un vrai comité avec James Conner. Les deux paraissaient bien honnêtement. Le goal line a été à James Conner, mais ils n'en ont pas eu tant que ça, les Cards. Fait qu'on ne peut pas faire un constat total pour le restant de la saison avec ça. Mais écoute, pas mauvais le Trey Benson. Puis très, très, très intéressant, surtout en dynastie. Et j'aurais un petit peu peur à avoir James Conner en annuel en ce moment.
OK. Puis tu vois, c'est intéressant, JP, parce que plus tôt, quand on faisait nos prévisions, etc., tu disais... Tu avais dit, je pense, il y en a qui ont peur de Trey Benson, pas moi. Là, finalement, tu regardes ce match-là, tu te dis...
Puis c'est même pas niveau talent, il donne ce que je m'attendais. Là, c'est plus l'utilisation. Fait qu'on parle pas d'une puissance offensive, les Cardinals. Puis si j'ai que 60 ou même 50% des touches avec mon James Conner, mais c'est sûr que...
Pas beaucoup de valeur.
C'est ça, exact.
OK, Jets-Steelers maintenant. Il y en a qui avaient hâte qu'on parle de cet affrontement-là parce que Jets-Steelers, ça a quand même, comment je dirais ça, ça a été le festival offensif de la fin de semaine. Ça a été un match très serré, back and forth. Rodgers, 4 passes de toucher. Justin Fields, tout feu, tout flamme. Tout fonctionnait pour les deux attaques.
Oui, et rien ne fonctionnait au niveau défensif pour ces deux équipes-là. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de points que c'est juste en raison des offensives. Les défensives dormaient au gaz. Surtout, ça m'a vraiment étonné, ça des Steelers. Tout le monde, niveau linebacker puis au niveau des DB, semblait perdu dans ce match-là. Justin Fields avait l'air d'un super-héros. Il n'a pas joué un grand match, si tu me le demandes, bien honnêtement. Par contre, une chose que j'ai adoré de voir au niveau fantasy, il over-target Garrett Wilson, c'est mais vrai. Solide.
Ouais.
Okay? Puis Garrett Wilson joue bien comme il a toujours joué, j'ai aimé ça. Une affaire qui m'a vraiment surpris, puis ça, c'est... Il y a quelques joueurs qui m'ont vraiment shaké, mais celui qui m'a le plus shaké en fin de semaine, je pense, c'est Breece Hall. Calis qui était bon. Comme ses stats sont bien. Mais il jouait encore mieux que c'était.
Il avait du juice là-dedans, vraiment.
Je te dirais que Fields et Breece Hall, les deux jouaient avec le sourire, dans le sens où je ne voyais pas au travers du casque, mais la façon qu'ils jouaient, il y avait comme une énergie que je n'ai jamais vue pour ces deux gars-là. Peut-être première
ou deuxième. Qu'on n'a pas vu chez les Jets depuis un certain
temps. Oui, c'est la seule chose qui me donne confiance, mais sinon, moi, c'est un match pareil que je jetterais dans les poubelles parce que c'est vraiment exagéré. Puis il y a une théorie, ça, on va en parler le jour qu'on va parler de bête ensemble, GF, mais. Que je me suis toujours dit, puis j'ai même gagé là-dessus. Par contre, les sites prennent trop une grosse cote dans les paris intra-match. Fait que quand le match est commencé, ils vont vraiment baisser les cotes pour se prendre une plus grosse marge pour fourrer le monde avec moi, comme moi, avec ces théories-là. Mais bref, les points amènent les points dans l'NFL. Fait que s'il y a une équipe qui score des points, la défensive, je ne sais pas pourquoi, c'est là-dessus qu'on va passer une heure, mais il y a un aspect mental que la défensive joue plus soft si elle a des points marqués sur le board. Versus, tu as un affrontement qui, après trois quarts, c'est 7-7. Est-ce que ça joue serré défensivement? Pourtant, la même offensive contre la même défensive, si c'était 37-33, ce serait plus ouvert. Ça, c'est vraiment philosophique. On pourrait passer des heures là-dessus, mais c'est ça que j'ai vu entre les Steelers et les Jets. Fait que ne pas exagérer un Calvin Austin, 4-4, 70 verges, un touchdown. Il y a eu un échappé. Là, je ne parle pas d'un échappé de ballon, mais comme... On s'est vraiment troublé au niveau du coverage. Ça a donné un long jeu à Calvin Austin. De là, c'est verge. Puis après ça, c'était le gars de libre dans le Red Zone. Ouais. Fait que ça a donné un beau match, mais c'est pas un grand joueur. Ça n'a pas été un grand match de DK Metcalf. Non. Il m'a un peu déçu au niveau football, by the way. Là. Je trouve qu'il manque de vitesse. Puis fait que c'est ça, je trouve que tout a été un petit peu inflate dans ce match-là. Par contre, au niveau des porteurs de ballon, en gros rouge, 20 foncé. On a Caleb Johnson qui, oui, pourrait nous donner un petit peu de panique. Mais écoute, on a Arthur Smith qui se prend pour je ne sais qui depuis toujours. On l'a vu avec Bijan Robinson quand il était à Atlanta.
Mm-hmm.
Fait que de donner juste une course à Caleb Johnson à son premier match, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça. Mais si on a cette même sous-utilisation-là pour les prochaines semaines, là, c'est panique.
Ben oui. Mais bon, est-ce que... Écoutez, tu sais... Mettons, puis vous savez, là, au podcast, si on en a parlé, Caleb Johnson, c'est un des favoris de GP, c'était un de nos targets. Où est-ce qu'il sortait? On trouvait qu'il y avait de la valeur, qu'il pouvait rapporter gros. Fait que, tu sais, il faut rester la tête froide. Il y avait des raisons pourquoi on l'aimait pour, au niveau talent, niveau contexte, etc. Je pense que c'est un meilleur porteur de ballon que Kenneth Gainwell. Tu sais, mettons. Fait que, down the line, il va avoir des opportunités. Je pense aussi dans son cas, tu sais, sur Sleeper, exemple, il était projeté à 9 points. Il était un flex start locké dans les line-up des gens pour la plupart. Finalement, il y a un seul snap pour moins deux verges. C'est, mettons que le contraste est frappant, mais c'est pas un gars qu'on a repêché pour être dominant dès week 1. C'est pas Ashton Jeanty qui allait avoir le backfield à lui seul, mais je pense que certains analystes qui ont donné l'impression à des pooleurs que Caleb Johnson allait être le clear-cut starter dès le jour 1, ce qui n'est pas le cas. On est dans un comité, mais il faut avoir confiance au talent. C'est pas la première recrue qui est un peu plus effaçant en début de saison. On l'a, Caleb Johnson, parce qu'on pense qu'il va être payant. Il va être de plus en plus payant au fur et à mesure que la saison va avancer. Autre chose, JP, j'avais-tu quelque chose que je voulais rajouter? Oui, par rapport à Breece Hall, je m'excuse, je reviens là-dessus, mais t'sais, on a parlé déjà que ça pourrait être un candidat à être échangé. Imagine Breece Hall, là, c'est un match. Bon, ça reste un gars très talentueux. Imagine Breece Hall, exemple, qui s'en va aux 49ers. On dit là-bas, CMC est fini, il est rendu vieux. On tasse ça. Brian Robinson, c'est plus un change of. C'est pas lui la solution. Tu vas chercher un gars comme Breece Hall. Imagine un instant ce gars-là dans le système d'un gars comme Shanahan. J'en salive là, juste à y penser. Bref. Quand même très intéressant. Puis, ben écoute, c'est toujours le fun de voir un peu de vintage Aaron Rodgers lancer 4 passes de toucher, même si, je cite Jean-Philippe Marcoux, il est aussi mobile. En fait, j'ai vu des rushs plus mobiles qu'Aaron Rodgers.
Ah, c'était complètement ridicule.
Ouais. Quand même rendu à quoi, 43, 44, là, mais ouais. Commanders, Giants maintenant, JP. Bel affrontement quand même, un match serré.
Ouais, McLaurin, quoi, c'est quoi? Genre 2 catch, 27 verges, si exact, je me souviens. Bon.
Exact.
Faisait pitié, mais écoute, il n'y a pas eu de camp, tout ça, c'est tout à fait normal, on met ça dans les poubelles. De là aussi.
Il a été over target, puis c'est ça aussi, des fois, les receveurs éloignés. Il a été over target de 5 verges, mais s'il n'était pas over target, il y avait un catch probablement de 50, 60 verges, peut-être même
écoute,
un touchdown.
Tu regardais la game, parce que c'est exactement ça. Puis de là aussi, les stats exagérées pour Deebo Samuel. Fait que ceci explique cela. J'ai pas trouvé que Jaden Daniels a joué un grand match, by the way.
Il finit avec 20 points quand même, tu sais.
Ouais, mais c'est ça un QB qui court.
Fait. C'est un bon exemple du flow incroyable qu'amène Jaden Daniels, tu sais.
Crise de bon point. Puis la def des Giants, c'est meilleur qu'on pense. Fait que oui, les Giants ne sont pas bons, mais ne regardez pas les Giants comme un grand match-up fantasy. Ils ont vraiment une belle défensive disciplinée.
Faites juste changer de poste quand c'est l'offensive des Giants qui est sur le terrain.
Ouais, parce que c'est simple. Pour vrai. Si vous avez Russell Wilson dans un super flex, ayez un backup plan parce que c'est sûr que Jackson Dart ou Jameis Winston arrivent bientôt. C'est dégueulasse.
Ça ne fait plus la job.
Puis je sais, GF, que quelques GM de la NFL nous écoutent. si vous êtes un club gagnant, aspirant au Super Bowl et vous manquez de jeux intérieurs, Chris, allez échanger pour Wendell Robinson. Il m'impressionne, ce gars-là. Il joue tellement bien à l'intérieur. Mm-hmm. C'est fou. Dans un club qui, on s'entend que la boxe est loadée parce que personne n'a peur de eux, l'offensive des Giants, mais même là, ils réussissent à se détacher. Ce gars-là m'impressionne. En fantasy, on s'en fout, mais c'était juste parler au GM de la NFL de c'est un target exceptionnel si vous n'avez pas. Sinon, Neighbors, j'ai peur pour lui parce que c'est pas fort l'offensive. Puis, la star du match, même s'il y a seulement que 10 courses, 82 verges et un touchdown, c'est Bill Jacory Kroski-Merritt, que 33% des snaps. 33% des snaps. Mm-hmm. Donc, imagine s'il y avait eu le load au complet, on parlerait de 30 courses, 240 verges et 3 touchdowns. Non, mais il y a des gens qui aiment ça extrapoler, mais tout ça pour dire qu'on y va.
Je pense, tu sais, on a compris suite à ça, avec ce qu'on a vu de lui dans ce match-là, pourquoi Brian Robinson a été changé, pourquoi il y avait autant de hype sur lui durant la pré-saison.
Tu sais, j'étais pas le fan numéro un de Brian Robinson, mais déjà, Kroski, je le trouve meilleur que Robinson à son pic. Par contre, on va vraiment beaucoup utiliser Austin Ekeler, selon moi. Ça sera jamais Kroski tout seul, mais c'est dans une offensive qui va avancer, puis j'ai l'impression qu'on veut lui donner les goal lines. Fait que c'est un gars qui. ça pourrait être un league winner, bien honnêtement. Moi, j'ai hâte de voir les snaps au travail des prochaines semaines, mm-hmm. à quel point ça va monter. Moi, je souhaite que ce soit 50% pour le starter aveuglément. Mais c'est ça.
Fait que mettons, moi, je suis un DG, puis j'ai repêché Chris Rodriguez en me frottant les mains, en me disant « je suis un génie, c'est lui qui va être le starter ». Tu me recommandes-tu de le mettre ses waivers, Chris Rodriguez? Qu'est-ce que je fais?
Je te recommande de te mettre toi-même dans les waivers.
Ah, c'est bon. Puis, mais tu sais, on s'entend, là, minimalement, moi, je pense que c'est un gars qui va ramener de la valeur comme flex certainement d'ici la fin de l'année. Peut-être pas un RB2 à cause de la situation avec Eckler, etc., mais il va avoir des goal lines,
ça se peut très bien qu'il finisse comme un running back 2.
Oh, je suis pas en désaccord avec toi, mais je pense, tu sais, rendu là, tu peux le mettre dans ton starting line-up avec une certaine confiance.
100%.
Il l'aime, puis il y a des raisons, il leur donne des bonnes raisons de l'aimer. OK, on s'en va maintenant vers Broncos Titan, JP. Ton poulain Bo Nix qui n'a pas eu un match facile.
Ouais, après le premier quart, j'ai été me clencher 2-3 gravoles. les deux offensives, ça faisait terriblement pitié. Par contre, j'ai vu deux des meilleures défensives en fin de semaine. Les Broncos, on s'y attendait, même qu'on s'en est parlé souvent, mais on pense que c'est la meilleure défensive. Patrick Sorten a vraiment démonté Calvin Ridley. Ridley pouvait absolument rien faire. De là aussi, quelques targets à Elik Ayermaner. C'était la seule façon des Titans.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a, mais tu vois encore là, tu lis, mettons, l'analyse sur Sleeper. Là, c'est... Hey, c'est intéressant. Ayermaner a même eu plus de targets que Calvin Ridley. C'est vraiment quelque chose à tenir en compte pour les prochaines semaines. Il n'y a pas... Tu sais, en tout cas, bref. C'est pour ça qu'il faut écouter Fantasy Moneyball. C'est pour cela la valeur ajoutée d'un podcast comme le nôtre. On va plus loin que vos petits box analyses de box score sur Sleeper, puis on vous amène des explications comme celle-là. Fait que Ayomanor, JP, tu laisses ça ses waivers dans ton cas, tu pars pas en peur, tu commences pas à t'exciter en annuel?
Parce que ça dépend de la longueur des benches que vous avez, puis combien vous êtes dans, si vous êtes dans une ligue à 10 poolers, absolument pas. Ouais. En dynastie, je m'excite en Christie parce que Ridley n'est pas éternel. Mm-hmm. En annuel, dans une ligne à 12, je garde un œil dessus. Il y a des gars beaucoup plus intéressants qu'on a listés justement sur Patreon.
Ouais.
Fait que moi, je serais patient parce que moi, j'ai plus l'impression qu'on voulait justement donner un petit peu de lousse à Cam Ward puis pas finir avec 5 interceptions en lançant contre Sorten. Donc, voilà pour ça. Puis, écoute, Bo Nix, c'est sa pire game en carrière. Statistiquement, il y en a eu des similaires, mais au niveau football, je le trouvais terriblement perdu. Le premier quart, c'était déjà moins payé, mais le reste, là, c'était complètement pathétique. Je sais, tu sais, j'ai pas d'explication pourquoi. Jeffrey Simmons, le D-line des Titans, avait de l'air d'Aaron Donald dans son pic. Puis Simmons, c'est un Christy de bon joueur de football. Là, fait que, c'est pas étonnant qu'il donne un match comme ça, mais la whole line des Broncos laissait tout passer. Puis Nick semblait vraiment perdu et c'est peut-être le pire. Le pire carrière cette semaine, drafté l'an passé tôt. Là,
ouais.
Là je parle des Drake May, JJ McCarthy, Caleb et compagnie. Ça faisait vraiment, vraiment, vraiment pitié. Mais le système offensif, j'ai pas trouvé ça bon. L'utilisation des running backs par la passe, c'était zéro. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Je donne carte blanche aux Broncos puis aux Titans de nous surprendre positivement parce que les Titans aussi, ça faisait pitié. Cam Ward, je pense, c'est quoi, 2-3 points fantasy.
Ah ouais, c'était...
Il avait de l'air perdu, mais
c'est
une recrue, c'est un genre de recrue qu'en temps normal, dans NFL, en 1990, on l'aurait assis la moitié de l'année puis c'est ce que ce gars-là aurait dû avoir. Fait que je peux pas vraiment analyser son match. C'était une vraie recrue contre la meilleure défensive de la NFL. Fait qu'on s'attendait à rien puis il n'a rien donné. Voilà.
Une autre affaire aussi qu'il faut qu'on mentionne, JP, c'est le split des carries ou la différence d'utilisation entre J.K. Dobbins et RGRV.
Et Tyler Bidet. ça s'écrit Baddy, là.
Ouais.
Mais qu'au final,
Bidet a
eu. Je vais juste vérifier pendant que tu en parles, mais comme il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de touches lui aussi.
C'est un J.K. Dobbins qui sortait en 10e, 11e ronde, RV qui sortait en 6e ronde. Le porteur numéro 1 dans cette équipe-là, c'est J.K. Dobbins. C'est fou. Quand même, parce que je pense que toutes les situations comme ça qu'on a parlé dans le podcast cette semaine se sont toutes précisées ou presque en notre faveur. Là. Il y a Caleb Johnson qui a été un target.
On faut être patient.
Exact. Mais sinon, Javonte, J.K. Dobbins, name it, là, c'est tout, c'était tout eux les clear lead back puis au rang où est-ce qu'ils sortaient. En tout cas, on peut se frotter les mains puis espérer des belles choses pour la suite des choses. Mais oui, JP, reviens-nous avec Bédé, ton poulain Bédé.
Ouais, mais il était souvent sur le terrain. Il y a eu deux catchs, je pense, c'est aucune course, mais il était vraiment, vraiment là souvent. Puis je te dirais que J.K. Dobbins est de loin en ce moment le meilleur running back à Denver.
Intéressant, puis j'ai hâte de voir la suite des choses parce que, tu sais, Bonix, je sais que tu l'adores. Il y en a qui l'aiment moins. Il y a eu des débats des fois autour de ça. Il va falloir qu'il se mette à performer rapidement, JP, parce que je sais que tu as une coupe de 100 000 là, de placés cette année autour de Bonix. All right, fait qu'une attaque, certainement une situation à suivre que celle des Broncos et tout l'argent, JP, que tu as mis sur le dos de Bonix. On se transporte maintenant, JP, vers l'affrontement interdivision entre les Seahawks et les 49ers.
Ouais, la blessure de Kittle, c'est leur highlight, ainsi que la surutilisation encore de McCaffrey. J'ai rien vu de si débile que ça au niveau des Niners. Ricky Purcell, c'était bien. Il n'y a pas eu tant de targets, même si on prend compte que Juwan Jennings s'est blessé aussi dans le match. Mais je peux pas dire que je suis déçu. J'ai hâte de voir avec possiblement Mac Jones la semaine prochaine, qu'est-ce que ça va donner.
Ouais.
Les Seahawks, j'aurais un panique et un on s'excite dans le même match, puis même quelques paniques au final. Je viens de voir la liste.
Ouais, je vois, c'est quand même pas mal barré, beurré de rouge.
Je vais y aller en décroissant. Cooper Kupp semble vraiment fini. Il avance pas. Oui, il était utilisé dans le slot comme on le prévoyait, mais c'était pas fort. Sam Darnold joue comme
Sam Darnold.
Exactement. 16 en 23, 150 verges. Je le trouvais terriblement ordinaire. Les Niners n'ont plus la défensive qu'il y avait dans le temps, donc il n'y a aucune raison que les Seahawks n'avancent pas contre les 49ers. Et aussi l'autre panique pour moi, c'est Kenneth Walker.
Aïe, aïe.
Oui, OK, chacune de ces courses, j'ai regardé tous les matchs, je regarde la stat line, ça reste une catastrophe terrible. La catastrophe, c'est pas son average par course et tout ça, parce qu'au final, Ladainian Tomlinson ou Walter Payton n'aurait pas fait mieux avec ces courses-là. Il n'y avait rien d'ouvert devant lui. Il recevait le ballon sur le torse, puis il y avait déjà deux gars sur lui. Fait que ça, on s'en fout, c'est pas grave. C'est au niveau des snaps, c'était vraiment 50-50 avec Charbonnet. Est-ce qu'on en a parlé quelques fois, surtout hors micro, mais on ne sait pas trop pourquoi que tout le monde pensait que ça allait être Kenneth Walker.
C'est exact, le bel cow.
Au final, on l'a nulle part. T'sais, moi, sur 600 best balls, je l'ai littéralement dans aucun. J'avais aucun intérêt pour lui en raison de ce risque-là. Mais en même temps, j'ai pas Charbonnet partout. C'est juste que c'est une tarte qui est divisée en deux.
C'est un gars, Kenneth Walker, JP, corrige-moi si je me trompe, qui sortait grosso modo dans le même range qu'un gars comme Chuba Hubbard, par exemple.
Exactement. Exactement.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est ça. Au final, le contexte, on en parle souvent. C'est terriblement important. Est-ce que Kenneth Walker, en santé, c'est un meilleur running back que Chuba? Possiblement, oui. Mais le contexte n'est vraiment pas identique.
Voilà. Puis, tu sais, moi, un autre truc que je mentionnerais par rapport à ça, surtout, tu sais, si j'ai à choisir entre deux porteurs de ballon dans un comité, je veux le porteur de ballon qui semble être en montée. Je veux le porteur de ballon qui semble prendre de plus en plus de galons. Je veux pas le gars qui, au contraire, que son rôle diminue depuis un an ou deux. Et bien, dans le cas qui nous intéresse ici, c'est Charbonnet, là, qui, sans dire que Charbonnet est en montée fulgurante, va finir top 10 RB. Et coach l'aime, il y a de plus en plus de touch, il y a de plus en plus de snaps depuis qu'il est arrivé dans la NFL, Charbonnet, alors que Walker... Puis Walker, c'est pas comme si c'était un porteur de ballon qui pouvait faire tout sur le terrain. C'est pas un gars qui attrape beaucoup de ballons. Fait que s'il n'y a pas une portion extrêmement importante des carries, la valeur fantasy devient pas nulle, mais très, très, très basse.
C'est un gars de volume, exactement. Fait que j'ai rien à dire d'autre. Puis là, je vais te parler de
la bonne nouvelle.
Ouais, puis en fantasy. Peut-être le plus gros, on s'excite. Les stats en disent long. Mais au final, la façon qu'il jouait, moi, c'est le gars avec Breece Hall qui m'a le plus shaké positivement en fin de semaine, c'est JSN, Jackson Smith and Jigba, qui jouait à l'extérieur. Fait que il est capable, le petit, de jouer à l'extérieur.
C'est un de tes points d'interrogation,
ouais,
depuis ça.
Exactement. Puis on dirait qu'à chaque jeu, il y avait 15 verges de séparation avec son couvreur. C'était fou. Il a fini avec 82 verges.
82%.
Ouais, 82% des des verges par la passe de son équipe.
C'est ça. Sam Darnold, 16 en 23, 150 verges. JSN en a 124.
C'est fou raide. C'est fou raide. Puis, tu sais, oui, c'est impressionnant, mais comme je te dis, c'est le comment, moi, qui m'impressionne. C'est, il était libre à chacun des jeux. Puis s'il jouait avec un Geno Smith à son pic à Seattle, on aurait peut-être un match de 200 quelques verges. Mm. Il était toujours libre. Par contre, est-ce qu'il faut tout donner pour aller chercher ce gars-là pour le restant de l'année? Mais écoute, Sam Darnold va être là le restant de l'année. Fait que je suis comme dans une situation. Si vous l'avez repêché, tu sais, quoi, c'est 13 à 15, 16e receveur de passe, je pense que vous allez être satisfait parce qu'il va finir dans ces eaux-là. Mais nous, on avait peur qu'il glisse plus loin que ça, mais je pense pas que ça va être le cas avec ce load-là.
Ta question, JP, c'était justement par rapport au rôle de Cup, le fait que les deux jouaient plus à l'intérieur, qu'ils allaient un petit peu manger dans la même assiette. Mais là, ben, de un, JSN a été souvent à l'extérieur. Cup a l'air encore plus fini qu'il l'avait l'air l'an dernier. Fait que tu prends ces deux éléments-là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, Cup ne viendra pas là, manger... des touches à JSN cette année. Fait que très hâte de voir, très intéressant pour la suite, mais effectivement, j'aime JP ta mise en garde. Ça reste quand même Sam Darnold qui va lancer le ballon à JSN le reste de l'année. OK, un autre match qui a, je crois, fait peur à énormément de poolers, et c'est l'affrontement entre les Packers et les Lions. Les Lions qui ont l'an dernier connu une saison historique, l'une des meilleures saisons offensives quasiment de l'histoire de la NFL au niveau des différents stats, indicateurs. Donc, on s'attend à une régression cette année, mais là, dans ce match-là, écoute, il n'y a aucun de leurs gros noms offensifs qui a ramené, qui a connu une bonne performance ou à peu près. Puis, c'est pas juste une performance so-so. Là. Dans certains cas, c'est absolument abominable.
On relaxe.
Merci.
C'est la semaine 1, puis tout le monde était prêt à déclarer les Packers comme une des meilleures def avant l'arrivée de Micah Parsons. Là, finalement... c'est une des meilleures défs, aucune surprise. Et les Lions scorent toujours moins de points à l'étranger qu'à la maison dans un dôme. Moi, j'appelle ça le facteur Drew Brees. C'était fou comment qu'à la maison dans un dôme, pas de vent, aucune contrainte, comment c'était beaucoup plus facile. Et c'est tout à fait normal. Fait que j'ai aucune surprise à ce niveau-là. Et encore une fois, j'avais aucun Lion dans mes line-up en DFS parce que c'était d'une évidence que ça allait être difficile. Premier match sans Ben Johnson aussi pour les Lions. Semaine prochaine, si je ne me trompe pas, ils reçoivent les Bears de Chicago à Détroit. Ils regardent bien ça exploser.
OK, j'aime ça. Puis parce que, tu sais, comme je dis, quand on parle de performance abominable, là, tu checkes la stat line, mettons, de Jahmyr Gibbs. Tu checkes, tu sais, Jahmyr Gibbs, je pense qu'il a attrapé 10 passes, quelque chose du genre, pour genre 25 verges. Là. C'est ça. 10 passes pour 20 verges, ouais, quelque chose du
10
genre.
10 pour 31. T'sais,
c'est vraiment, il y avait rien qui fonctionnait.
Mais au final, tu vois, c'est pour ça que les statistiques, ça veut rien dire, selon moi. Tu sais, 9 courses, 19 verges, avec 10 catches, 31. Il y a eu 10 targets qui ont donné 10 catches. Félicitations pour lui. Mais aussi, quelle utilisation monstrueuse.
100%, ben
tu comprends?
Oui,
fait que moi,
on est d'accord.
Moi, avoir ça, si j'ai Jahmyr Gibbs, je suis encouragé. Dans une attaque qui était incapable d'avancer, mon porteur de ballon, pas mon receveur de passe, mon porteur de ballon a 10 passes et 10 passes captées. C'est fucked up. Là. C'est vraiment débile.
Oui, ben c'est super intéressant, mais tu prends ça de l'autre côté, tu es un DG hyper émotif, tu vois ça, tu te dis cette attaque-là ne sera pas capable d'avancer cette année. Gibbs va bien beau avoir du volume, ils vont stack de box, il n'y a rien qui va se passer, je panique. Jameson Williams n'aura pas de grosse game. C'est la fin du monde. Mais effectivement, c'est vrai que l'usage, en tout cas le volume, puis c'était super impressionnant, mais ça me rappelle un peu, l'an dernier, je pense que c'est Alvin Kamara qui avait comme capté 15 passes dans un match pour genre 42 verges, là, quelque chose
c'est
du genre.
C'est ça qui pouvait faire ça.
C'est ça. OK. Bon, fait que chill pill tout le monde, on se calme, on attend la semaine prochaine, puis fire up les gars des Lions dans vos line-up de DFS. Texans, Rams, GP, encore là, l'attaque des Texans qui a fait peur à plusieurs poolers. Il y en a qui disaient que CJ Stroud avait de l'air pire que pire. Ils sont inquiets pour Nico Collins, etc., etc. Puis à l'inverse, les gars qui ont eu des grosses performances du côté des Rams.
Oui, deux des meilleures défensives de la NFL. Les gens l'ont oublié en fin de semaine. CJ Stroud n'a pas joué.
Mais c'est ça, GP, je m'excuse, je fais un léger aparté, mais c'est un peu, comment je dirais, la nature du sport en général, mais encore plus le football. Quand une défensive joue bien, c'est l'attaque qui est pourrie, c'est les joueurs qui sont pourris de l'autre côté. quand une attaque fait 45 points, l'attaque était. C'est toujours. On analyse toujours ce sport-là par le prisme de l'attaque. C'est rare qu'on va d'emblée donner du crédit à une défensive pour une grosse performance.
Absolument.
À part quand c'est genre le Super Bowl l'an passé, c'était tellement débile comment que les Eagles jouaient bien défensivement. Mm-hmm. Mais en général, on a souvent tendance à blâmer les joueurs offensifs pour avoir mal joué au lieu de donner du crédit aux joueurs défensifs.
Puis tu sais, il y a mille façons d'analyser ça. C'est vraiment complexe et compliqué. Mais si une défensive, mettons, là on parle des Rams, si les Rams ont couvert de A à Z au travers du match un Nico Collins, puis on dit aux Texans, battez-nous, mais avec quelqu'un d'autre, puis on réussit cette stratégie-là, c'est ça, avoir une bonne défensive au final. Fait que tu sais, ce match-là, j'ai vraiment pas eu de plaisir à regarder les deux offensives parce que les defs jouaient tellement bien, tellement disciplinés. Même les Rams s'en sont sortis vainqueurs, mais écoute, c'était pas... à part Puka Nacua, qui est toujours fucking libre, ce gars-là, ça n'a aucun sens, comment qu'il est incroyable. Il n'y a pas eu... C'était pas un grand match de Stafford, ni de Devante Adams, ni de Kyren Williams, que lui, je le trouvais très slow en passant.
Ouais.
Un petit peu peur. Puis cette offensive-là, elle doit se rendre en red zone pour que Kyren paye. Puka, il est match-up proof, puis peu importe qu'est-ce qui se passe dans un match, il va faire ses points. Mais pour revenir, qu'est-ce qui m'inquiète plus, c'est CJ Stroud. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je le trouve de plus en plus en panique, ouais. On dirait. Depuis son année 2 jusqu'à aujourd'hui, c'est comme s'il n'est pas en contrôle versus un autre QB qu'on va parler plus tard tantôt. Mais je ne le trouvais pas en contrôle, je le trouvais en panique.
Je vois, je sais qu'il y a qui va nous parler.
Puis écoute, ouais. Ses receveurs de passe, il n'y a pas de gros noms après Nico Collins, mais tout le monde jouait bien. Je trouvais Jaden Higgins relativement libre, souvent sur le terrain. Puis Stroud le manquait. Puis Stroud et les Texans n'ont pas adapté le plan de match à la mi-temps parce que les Rams mangeaient la O-line. Puis finalement, ils ont gardé le même plan de match. Puis Stroud n'avait pas de temps pour lancer. Puis il n'y avait aucun lancer rapide. Mais bref, j'ai un peu peur, moi, pour tout le monde, sauf Nico Collins, bien sûr, là, mais de Houston. Mais CJ Stroud, moi, je le starterai pas en annuel, bien honnêtement.
OK, quand même. Puis, tu sais, Puka Nacua, je pense qu'on l'a vu dans certains drafts un peu droppé avec les nouvelles, l'histoire de l'état de santé de Stafford. Puis, je pense qu'il y avait quand même une raison d'avoir un peu d'être inquiet autour de Puka Nacua. Mais franchement, tu regardes ce match-là. C'était un match, mais c'est le Puka Nacua des dernières saisons quand il est en santé, c'est-à-dire du volume en malade, des chiffres débiles. C'est dur de ne pas finir top 5 à la position avec une utilisation comme ça.
Oui, puis tu sais, on avait Nacua puis Ladd McConkie comme bust pour deux gars qui ont des situations, tu sais, je parle contexte, c'est même pratiquement talent similaire. Puis finalement, on a deux histoires complètement différentes entre ces deux gars-là cette année à date. Après, c'est juste un match, mais Puka Nacua est overfeed. C'est clairement le target leader, contrairement à Ladd McConkie qui partage ça avec deux autres receveurs de passe. Au final, anytime, moi, je donnerais Ladd McConkie plus pour Puka Nacua sans hésitation.
100%. Mais si je suis l'honneur de Puka Nacua après cette semaine-là, pas touche, il reste dans mon line-up.
Et voilà.
OK, et là, ben, écoute, on se transporte vers l'affrontement du Sunday night, du dimanche soir, qui a fait place à une des impressionnantes remontées de l'histoire récente de la NFL, l'affrontement entre les Ravens et les Bills de Buffalo. Quel spectacle, quelle performance de Josh Allen qui nous rappelle pourquoi il est le king à sa position en fantasy. Il n'y a personne qui peut faire ce que Josh Allen fait.
100%. Puis écoute, on ne dira pas, on s'excite avec Josh Allen parce qu'on s'attendait à ça. Même principe aussi pour Lamar, qui ont eu deux gros matchs, deux fantasy.
Derrick Henry aussi. Ouais. Hein, ça, bon, il a son fumble à la fin, mais ça reste un match monstrueux. Ouais. Le gars n'a pas l'air d'avoir trop vieilli, contrairement à d'autres gars que tu as mentionnés. Mike
tout.
Evans. Tu parlais de Karen qui avait l'air slow. Derrick Henry, j'ai l'impression qu'il pourrait jusqu'à 40 ans dans la NFL, ce gars-là.
On dirait, pour vrai, c'est ridicule. Puis Josh Allen, qu'est-ce qui m'impressionne vraiment, c'est que là, on pourrait rentrer dans un long débat là-dessus, mais je trouve pas que ses armes, fait que ses playmakers ne sont pas tant bons que ça, finalement. Keon Coleman a eu une belle game. Il a été relativement chanceux pour son touchdown. Sinon, oui, 8 catches, 112 verges, c'est très bien, mais tu as Josh Palmer sur le terrain, Khalil Shakir qui n'a pas joué un grand match, c'est pas fort. Kincaid, c'était bien. Dawson Knox, que tu sais, quand tu n'es pas sûr si c'est Knox ou Kincaid qui reçoit le ballon, je trouve ça en dit long parce que Dawson Knox, c'est pas un bon receveur tight end, bien honnêtement. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça vraiment impressionnant quand tu sais exactement ce que Josh Allen va faire. Et pour ceux qui avaient des... Je sais pas pourquoi, là, mais pour ceux qui pensaient que Ray Davis allait supplanter James Cook, je pense qu'il y a eu une course à peu près.
Ouais.
C'est ridicule. Donc au final, c'était intéressant comme match. Le monde s'emballe vraiment au niveau statistique. Fait que, tu sais, Zay Flowers, quoi, c'est 7 catches, 143 verges, un touchdown.
Je pense que c'est le plus haut, c'est le meilleur wide receiver de la semaine 1, le Zay Flowers.
Puis, écoute, il a bien joué. Il était over target. Bateman et Mark Andrews ont été under target comme ça, ça ne pouvait pas. Isaiah Likely n'était pas là. Puis, comme je disais plus tôt, les points amènent les points. Fait que c'est comme ça, mais vu que l'offensive adverse met des points, mais leur propre défensive ouvre plus le jeu, puis ça donne plus d'opportunités. Fait que je trouve que tout le monde dans le match qui ont eu des bonnes statistiques, c'est un petit peu inflate. Par contre, le plus gros on panique dans ce match-là et un des plus gros de la semaine, c'est Mark Andrews. Sans Isaiah Likely, il finit le match avec un catch, 5 verges dans un festival offensif. Fait que c'est effectivement droppable et instartable selon moi. J'aimerais bien mieux un Juwan Johnson. J'aimerais mieux, bien sûr, un Tucker Kraft, Colston Loveland, même s'il split avec Kemet.
Harold Fanning?
Non, mais pour vrai, rendu là, oui, puis surtout quand Likely va être de retour. Mais écoute, vous êtes vraiment dans la merde. Et mais anyway, personne qui nous écoute a Mark Andrews, étant donné qu'il nous écoute.
Exact.
Mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment pitié. Puis surtout, c'est ça, dans un match fini, quoi, c'est...
41-40 ou quelque chose comme ça, là.
Ouais, c'est ça, qu'il y a 81 points total de marqué. Tu finis avec un 4-5 verges, j'oublie ça. Parce que qu'est-ce qui va arriver quand les Ravens vont gagner un match 17-13? Il va finir avec 0 de chez 0. Fait que ça sert absolument à rien. Mais, tu sais, quand on vous dit de ne pas paniquer dans des match-ups comme Bengals-Browns et tout ça pour les Bengals, mais ne vous excitez pas non plus pour un match... Bon. Parce que ça ne sera pas ça à chaque semaine pour ces deux clubs-là. Si on inclut Kansas City, ces trois clubs-là dans la AFC, chaque fois qu'ils vont se rencontrer en saison, au final, c'est comme un prélude des séries. Ils savent très bien qu'il y a de fortes chances qu'ils se rencontrent en série. Il y a aussi des histoires anciennes de séries. Il y a comme quelque chose de plus. T'sais, c'est une game Montréal-Toronto un samedi soir. Il n'y en aura pas 40 par année comme ça. Il y a quelque chose de spécial de plus. Fait que oui, c'était relativement prévisible que ça allait être spécial, mais la semaine prochaine, déjà pour ces deux clubs-là, attendez-vous pas à ça.
Puis mettons, JP, entre Flowers et Coleman, là, c'est deux gars qui... tu sais, Coleman, c'est sa deuxième saison seulement dans la NFL. Flowers, un petit peu plus de match d'historique derrière la cravate, mais dans les deux cas, mettons, je suis l'honneur de Zay Flowers, je regarde ce match-là. Est-ce que j'ai une petite raison au fond de moi-même de croire que ça pourrait être une année où est-ce que Flowers prend un step, où est-ce qu'il l'éclot, puis qu'il s'impose là, comme un legit top 20 receveur de passe. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette performance-là qui peut nous laisser croire à ça?
Oui, mais tu sais, à prendre avec des pincettes, parce que si tu veux une réponse catégorique, je te dirais non, non, non.
Non, je pense pas qu'on a de réponse, ouais.
Mais non. Fait que tu sais, moi je pense que oui, c'est possible que ça l'arrive parce qu'au final, il est quasiment. Tu sais, laisse-moi deux secondes. Lamar Jackson a 14 passes complétées. La moitié c'est Zay Flowers. Moi, c'est plus ça dans un festival offensif qui m'excite un peu de Flowers. Par contre, c'est un des. Puis on va peut-être en parler plus tard, on s'en parlera tantôt après les matchs. Si on parle d'une question de Félix qu'on a eue par rapport à Coleman, parce que ça l'ouvrirait la conversation à plus aussi vers Flowers. Mais ça pour dire que moi, si j'ai Zay Flowers dans un club, c'est sûr que j'essaie de le vendre high en ce moment. Ça va de soi. D'aller chercher des gars qui déçoivent plus à la DJ Moore et compagnie. C'est donner un Flowers plus plein d'affaires contre un T. Higgins, ça serait magique de faire ça. Je ne dis pas que vous allez être capable, mais je ne ferais pas le contraire. Par contre, je n'irais pas trader pour Flowers parce que c'est impossible que le owner de Flowers en ce moment le laisse aller à rabais. Mm. Impossible.
OK, très, très cool. Puis finalement, ben, la semaine s'est terminée avec un affrontement du lundi soir entre les Vikings et les Bears.
Ouais. Pour moi, peut-être le match le plus intéressant de la semaine, c'était vraiment, vraiment bien. Puis il y a eu plusieurs histoires et plusieurs matchs dans ce match-là. JJ McCarthy, la première moitié, je te dirais quasiment même le premier trois quarts, c'était peut-être le pire corps arrière de la semaine. Ça faisait vraiment pitié. Il rendait justice au fait que c'est une recrue. T'sais, c'est une vraie recrue. Fait qu'il n'a pas joué un snap l'an passé. Puis ça paraissait vraiment en début de match. Il semblait vraiment perdu. Mais au travers de la deuxième moitié du match, il semblait plus lousse. Fait que, tu sais, là, ça va de soi. Ses armes aussi produisaient de plus en plus au travers du match en deuxième moitié. J'ai rien à dire de spécial pour Justin Jefferson, Hawkinson et compagnie. Par contre, au niveau des running backs, Aaron Jones est clairement le running back pour des passes et Jordan Mason est clairement le running back au sol. Mason, j'ai adoré son explosion, vraiment. Il jouait vraiment solide, il jouait bien, il jouait confiant. Par contre, il y avait vraiment le champ ouvert. Fait que, tu sais, beaucoup de courses qu'au niveau des stats, ça a l'air vraiment bien, mais écoute, toi et moi, JF, on les aurait fait ces 4-5 premières verges-là. Peut-être qu'on n'aurait pas été au contact de façon aussi violente que lui. Mais des fois, il faut vraiment voir le tape pour voir si la course vient de lui ou le trou qu'on lui a donné. Parce qu'il y a beaucoup de courses qu'Aaron Jones n'a pas eu cette opportunité-là. Fait que Jordan Mason a fait ce qu'il devait faire. Fait que moi, je trouve qu'il a joué vraiment un bon match. Puis de l'autre côté, DeAndre Swift, pour ceux qui avaient des doutes, je ne sais pas pourquoi, mais que Monen Guy ou Roshan Johnson, qui ne jouait pas parce qu'il est blessé, allait toucher à son rôle. Finalement, il est seul, mais seul running back. Tout seul, ça n'a aucun sens. Fait que moi, j'ai pas peur de starter. C'est peut-être une des plus grosses bargains de l'année. Même si on ne trippe pas sur le talent, son contexte est assez idéal. Merci pour DeAndre Swift.
OK, j'aime ça. C'est ce qui fait, c'est ce qui complète notre tour d'horizon de la dernière semaine. Puis
attends. Oui. J'ai la plus grosse affaire. J'ai gardé une surprise.
OK. J'aime ça.
Bon. Cette semaine, pas le, mais un des trois meilleurs carrières que j'ai vu jouer s'appelle Caleb Williams.
Wow. Ouais, okay.
Je me suis mis une note spéciale là-dessus. Tu sais.
Puis tu dis ça, JP, là, t'es vraiment. Pas que t'es seul dans ton coin, mais un peu, là, parce que le chatter autour de Caleb, c'est. Oh, il a bien joué sur une ou deux drives pour commencer la game, puis après ça, il est revenu à ses vieilles habitudes, puis ça a été le même Caleb qu'on a vu l'an dernier.
Ben, écoute, c'est ça que je trouve fascinant. Puis, écoute, vous savez, je ne suis pas le fan numéro un de Caleb, mais pour moi, de.
un bel euphémisme.
Ouais, vraiment. Mais tu sais, comme ton analyste maison, expert, c'est à vous de juger c'est quoi mon calibre, là, mais on va dire comme analyste, de rester fixe sur un point puis pas voir évoluer dans le temps avec les nouvelles informations, je trouve ça, excuse-moi, mais pathétique, dogmatique, puis ça sert absolument à rien, puis rendu là, je devrais jamais parler dans un micro si j'étais comme ça.
Okay? Puis on s'entend, JP, petite nuance, t'as jamais dit que Caleb était une pourriture, qu'il n'en serait jamais dans NFL, mais tu le voyais pas comme un carrière de concession, un vrai de vrai carrière élite.
Ouais, d'une dizaine d'années, dans voilà, un club de NFL, signé, t'sais. Fait que tu sais, je le voyais pas être une coche au-dessus d'un Kyler Murray, mettons.
C'est ça.
Automatique.
Alors que son draft capital, le buzz autour de lui, c'était carrière franchise.
Ouais. Puis la première année m'a donné absolument raison. Mais là, au travail du match, fait que, de là aussi, les statistiques, c'est bien. Fait qu'il a vraiment, vraiment beaucoup couru. Fait que niveau fantasy, c'était terriblement intéressant. Niveau par la passe, je vais aller chercher ça, JF. Je l'ai dans. Bon. 21 en 35 pour 210, un touchdown. Il n'y a rien à écrire à sa mère avec ça. Au sol, c'est fourrette, là. 6 courses, 58 verges et un touchdown. Mais moi, ce que j'ai trippé de lui, c'est que de un, il jouait vraiment plus en confiance que l'an passé. De deux, le contraire d'Aaron Rodgers, il faisait un petit peu de. C'est pas du même calibre, mais un peu à la Tom Brady. Tom Brady, c'est le carrière le plus mobile dans une pochette protectrice, peut-être de l'histoire de la NFL. Mais Caleb était terriblement immobile l'an passé dans la pochette, mais mobile à l'extérieur de la pochette. Mais dans la pochette, cette année, c'était fou. Fait que contre les Vikings, qui ont un pass rush assez phénoménal. Fait que je trouvais qu'il se détachait bien du pass rush. Puis il paniquait pas. Fait que t'es pas obligé de sortir de ta pocket automatiquement dès qu'il y a de la pression. Il faut juste que tu t'ajustes. Okay. Et il s'ajustait. Puis la def des Vikings, c'est pour ça que je trouvais que c'est un match intéressant. Elle est stud. Les Bears ont réussi à avancer contre cette offensive-là. Puis souvent, là, puis surtout quand j'analyse des gars dans NCAA, le jeu brisé, là, qu'il n'y a rien, puis que le corps arrière lance dans les estrades ou court pour deux verges, en dit souvent plus long qu'un long jeu spectaculaire. Fait que dans ces petites choses-là, je trouvais que Caleb avait l'air d'un vrai, de vrai QB dans la NFL lundi. Fait qu'au final, moi, je trouve ça fascinant, puis je trouve ça le fun aussi d'évoluer dans mes analyses. Fait que là, Caleb m'a donné des nouvelles informations. Fait qu'il faut pas que je reste fixe là-dedans. Fait que je trouve que c'est de loin le corps arrière sophomore, fait que de deuxième année qui a
performé.
Oh, ouais,
c'est plus que Jaden, tu dirais?
Ah, Jeff, même pas proche. Cette semaine, vraiment, le meilleur QB entre les deux, c'est Caleb.
Je t'attends.
Il jouait vraiment confiance. Il y a quelque chose de spécial qui se passe là-bas. Puis DJ Moore, Adonis et compagnie n'ont pas joué des grands matchs. Puis Caleb, je le trouvais allumé. Il n'allait pas sur le first read automatique. Puis comme je te dis, il ne voyait pas la pression l'an passé venir vers lui. Fait que j'ai trouvé écœurant.
Wow! OK, ça, c'est... Ben, écoutez, c'est super intéressant. Puis c'est... Si vous nous écoutez, vous êtes rendu à la fin de l'épisode, on n'a pas besoin de vous convaincre, mais c'est exactement pour ce genre d'analyse-là qu'on fait ce podcast-là, puis c'est pour ce genre d'analyse-là que vous devez écouter Fantasy Moneyball, parce qu'on va plus loin que les box scores, on va plus loin que les petits clips, les petits highlights. Il y a des analyses à profondeur ici, fait qu'on s'entend, tu regardes la stat line de Caleb Williams. Bon, tu sais, 6 courses, 58 verges, un TD, intéressant, mais niveau, tu sais, passing, 21 en 35 pour 210 verges, un touchdown, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout est là, puis tu nous dis, je l'ai trouvé écœurant, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pris un step. Le meilleur QB sophomore, qu'on parle quand même d'une QV quasiment historique, là, c'est quoi, 5-6 QB de la même QV qui start la même année dans la NFL, c'est, on voit vraiment très, très rarement ça, puis c'est des très bons en plus. Fait que, wow, honnêtement, je suis très, très, très... surpris, impressionné par ce commentaire-là. J'ai hâte de voir la suite pour les Bears. Déjà qu'il y avait un buzz autour d'eux, si Caleb peut juste faire la job, on ne demande pas. Il n'y a pas besoin d'être un Aaron Rodgers, d'être un Patrick Mahomes, Justin Herbert, name it. Là, on fasse la job, qu'il soit un bon game manager à la Jared Goff, à la Alex Smith, name it. Puis ça peut donner une très, très, très bonne attaque. Rappelons-nous les Lions là, des dernières années. Jared Goff, c'est pas... un candidat MVP, puis c'était la meilleure attaque de la Ligue à peu près.
Et mettons que lundi matin, je sortais d'un coma long de 5 ans, j'avais jamais vu et même connu le nom de Caleb Williams et je le découvrais là, je te dirais que c'est sûr qu'il est capable de faire ce que tu viens de dire.
Wow! OK, bon, ben tenez-vous là pour dit. Fait que avant de se laisser, j'aimerais ça, JP, qu'on réponde à une question qu'on a reçue cette semaine sur Patreon. Là, une question de Félix Grenier. Félix, qui est toujours très, très allumé, très actif. Merci, Félix, pour ton soutien et pour ton engagement envers le projet de Fantasy Moneyball. C'est super apprécié. Mais Félix a une question super intéressante par rapport à Keon Coleman. Félix nous dit qu'il y a Keon Coleman dans une de ses ligues. Puis je vais lire sa question dans le fond. Je pense qu'il vaut cher pour l'instant. Mon core wide receiver est solide et mon banc est rempli de valeur. Mes porteurs de ballon sont Josh Jacobs, DeAndre Swift, Cam Scarabou et Harris. Mais je veux sécuriser un porteur de ballon plus fiable. Selon vous, est-ce que c'est le bon moment pour le trader et quel porteur de ballon est-ce que je devrais cibler?
Oui. Pourquoi que je voulais absolument qu'on en parle, JF, c'est que cette question-là, premièrement, c'est sûr que plusieurs personnes qui ont Keon Coleman se posent la même question. Ceux qui ont Zay Flowers.
Mais
un autre joueur. Puis je trouve que cette question-là reflète tellement des réflexions, puis je trouvais que ça nous amenait à un point qu'on n'a jamais parlé encore dans le podcast, mais c'est que là, on a semaine 1 de passer, on en a parlé, il ne faut pas trop paniquer, il ne faut pas trop s'exciter. Fait que de trader à haute valeur un Keon Coleman, écoute, on s'appelle Fantasy Moneyball, fait que penses-tu que je compte ça? Je trouve ça écœurant comme plan, fait que bravo d'y avoir pensé, Félix. Fait que vraiment, tu as une belle stratégie.
Un bon élève, ouais.
Ouais. Non, mais je trouve ça super. Par contre, on vient de repêcher. Déjà, les pooleurs sont attachés à leur club. Et chaque exemple, quelqu'un qui a sélectionné Zay Flowers en quoi 4, 5, 6e ronde et que Flowers performe bien. Fait qu'il y avait déjà un attachement à son joueur. Fait que rappelez-vous l'analogie des tasses à café. Et là, maintenant, sa tasse à café, ben, il y a plein de gens qui sont venus la voir et ils ont dit qu'elle était donc bien belle, puis donc bien fine, puis donc bien ci, puis donc bien ça.
Ah, puis il a donné du. Christy de bon café cette semaine, bien meilleur qu'à quoi il pourrait s'attendre.
Donc là,
il s'attendait à genre du café nabob un peu cheap, il y a eu du café barista avec du petit lait, même du genre de latte.
On appelle ça quoi, des cafés de troisième vague? Là, je connais pas trop ça, mais bref, ça pour dire que la performance de Flowers lui a comme donné raison, même s'il n'y a aucune influence sur la performance de Zay Flowers dans NFL, le fait que Kevin l'ait drafté dans son fantasy cette année. Ça fait en sorte qu'il se sent encore plus attaché puis il est comme raison d'avoir drafté Flowers. Et ça, c'est un aspect philosophique, mais si cette personne-là trade Flowers de son équipe, c'est comme une façon de dire qu'ils abandonnent ce projet-là. Fait que le fait d'avoir raison, c'est con, mais vu qu'on est des humains puis on n'est pas des machines, est important pour bien des pouleuses. C'est là qu'on parle de laisser les émotions de côté puis de tomber dans le pragmatisme. C'est d'essayer de passer outre ce facteur-là. Donc, tout ça pour dire que, revenons au tasse à café, ton Keon Coleman, Félix, peut-être qu'avant le début de la saison, il valait, là je donne des valeurs fictives, il valait 20$. Okay? Puis là, avec ce qu'on a vu en fin de semaine, mais c'est pas 20$ qui vaut, c'est vraiment 30$ parce que c'est de loin le meilleur receveur de passe à Buffalo, ce qu'on s'attendait bien honnêtement, mais c'est le meilleur pass catcher total. Là. Fait qu'on inclut James Cook, on inclut Kincaid. Puis mettons que maintenant, il en vaut 30$. Mais étant donné que les gens sont attachés à leur club, ils ne sont pas prêts à s'adapter tout de suite par rapport à tous les joueurs. Mais pour le restant des pouleurs dans ta ligue, Félix, peut-être que Keon Coleman vaut 22 ou 23 ou 24$. Fait que pour être capable de l'échanger en ce moment, c'est impossible que tu aies une valeur similaire à ce joueur-là. Donc, tu n'auras pas malheureusement un Tony Pollard, un DeAndre Swift, tu l'as déjà, là, mais comme je te donne un exemple, tu n'auras pas ces gars-là. Fait qu'on va vouloir te céder les pommes pourrites, les gens qui déçoivent. Fait que quelqu'un va t'arriver avec un Caleb Johnson qu'au final, il va peut-être dropper dans les waivers dans 2 semaines pour ton Coleman. Fait que je pense qu'en aucun cas, si toi, tu attaques des poolers avec ton Coleman, en aucun cas, tu auras la juste valeur pour lui. Par contre, tu peux faire du JP Marcou. Fait que tu peux... Là, je donne un petit truc, là. Ça me fait chier de le dire. Puis je l'ai fait, JF, en passant dans notre dynastie il y a une semaine ou deux.
Okay? Ouais, OK.
Fait que je donne le truc à Félix et à tout le monde qui nous écoute. Mettons que c'est Tony Pollard que tu veux dans le club de. On va l'appeler Kevin. Bon, mais t'arrives à Kevin, OK, blabla. Serais-tu intéressé d'échanger? Oui, non, c'est toujours non. Y a-tu quelque chose dans mon club qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te manque? Conversation de base fantasy. Puis là, après ça, tu demandes pour un running back dans son club, mais pas celui que tu veux. Tu demandes la valeur pour quelqu'un d'autre, juste pour voir, premièrement, tu vas voir s'il surévalue de façon totale ses joueurs. Et de deux, moi, je demande tout le temps pour un gars qui voit un petit peu plus ou quelqu'un qui vaut vraiment moins juste pour avoir le pouls. Puis après ça, j'amène mon truc. Fait que mettons que tu demandes le prix pour un Breece Hall ou pour un... Écoute, j'ai pas de nom qui me vient en tête. Là. T'as-tu une idée? Mettons quelqu'un dans ce range-là.
Breece Hall, Chubb Auburn?
Oh, merci. Bon, tu demandes le prix pour
encore
eux.
Encore lui.
Puis là, le prix va être immense. Il se dit, ah, il va te falloir Coleman, il va te falloir ci, il va te falloir ça, excellent. OK, mais mettons de bord pour Tony Pollard. Comprends? Moi, ça, je fais à chaque call de trade, Félix. Pourquoi? Parce que de un, la personne, c'est sûr qu'elle va être déjà plus ouverte à te parler parce qu'elle pense que tu visais les autres d'avant. Et aussi, juste un aspect mental de sous-évaluer le gars d'après vu que tu viens de parler de quelqu'un plus haut parce que c'est impossible qu'il va aussi haut. Mais s'il dit à prime abord, mais Tony Pollard puis Breece Hall, je vois pas tant de gap entre les deux, mais écoute, fini la discussion là-dessus, c'est tout. Mais moi, à ce moment-ci, après la semaine 1, c'est sûr que j'attendrai plus des offres vers toi. Puis il ne faut pas oublier que, de un, personne ne veut trader en ce moment parce que c'est trop tôt. Tout le monde dit ça à tout le monde parce que ils ne vont jamais trader leur gars qui ont drafté en 3e round pour ton wide que tu as drafté en 8e round. Pour eux, mentalement, ça ne marche pas cette gymnastique-là. Et aussi, ils ne sont pas prêts à payer le prix pour ton joueur. Ils sont pas capables de voir que Coleman vaut plus qu'il valait ou un Zay Flowers aussi. C'est plate, mais c'est ça.
Super, super intéressant. JP, moi, j'aurais une petite question follow-up. Dans le fond, tu sais, Coleman, il a été quand même repêché relativement tôt par les Bills. C'est un gars qui a un athlète très raw, très vert, mais qui a certaines habiletés. Bon, l'an dernier, bon, il s'est blessé. On n'a pas pu voir toute l'étendue de son talent. Cette année, il commence la saison 8 catchs, 110 verges, 1 touché. Mettons, là, Coleman, la semaine prochaine, il fait 4 catchs, 60 verges, 1 touché. La semaine d'après, 6 catchs, 120 verges, pas de touché. Il commence à faire 3 performances intéressantes de suite, comme Pooler. Comment est-ce que, puis là, je sais que, tu sais, à un moment donné, c'est un or, c'est, ça ne s'apprend pas, là, ça ne se dit pas comme ça, mais comment est-ce que je peux déterminer si Coleman, ce que je vois là depuis 3 semaines, exemple, ça va être ça le reste de l'année, ou est-ce que, à l'inverse, c'est un sell high, puis il faut que je le vende avant que ça drop parce que les Bills vont continuer de spread la balle around, puis tatati. Comment est-ce, comme Pooler, que je peux venir départager tout ça?
As-tu une heure de libre? Mais
je sais que c'est une grosse question.
Ouais, non,
là, mais
c'est une grosse question. Je te dirais que...
Tu comprends? Je finis avec ça, JP. si je suis un pooler, s'il me refait encore deux autres grosses performances, Coleman, sa valeur, elle continue de monter pour moi, elle continue à mes yeux de monter pour les autres. Je veux pas l'échanger parce que c'est un vol. Je l'ai repêché en 9, 10, 11e ronde. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'il sortait. Fait que comment est-ce que je fais pour gérer la valeur de gars comme ça qui surperforment rapidement en début de saison leur rang de repêchage?
Mais écoute, à chaque année, il va en avoir. Mais au final, moi, c'est le, t'sais, là-dedans qu'on évalue un joueur. Là, Coleman, c'est un peu comme, on exagère en disant ça, puis excuse, je rentre encore en bourse, mais un IPO, ça c'est Initial ouais. Public Offering, c'est quand une action arrive sur le marché.
Exact.
Comme Facebook, c'est arrivé dans les années 2010. Fait que, mettons, comment évaluer que, OK, on dit qu'elle arrive à 200$ sur le marché, comment qu'on évalue que tout de suite, c'est ça que ça vaut? C'est tough parce qu'on n'a pas tant d'informations. Puis au fil du temps, on va en avoir, puis on va être capable de juger si l'action est overrated ou underrated. Mais Keon Coleman, c'est un bon exemple pour moi d'un IPO un peu. Fait qu'en ce moment, t'as un petit peu d'informations, son background de l'an passé, si, ça. Mais pour répondre à ta question, comment qu'on pourrait mettre une valeur rapidement dessus, mais c'est de voir les prochains matchs, c'est quoi le contexte. Fait que tu sais, tes exemples étaient bons, ils donnent deux autres bons matchs, mais c'est quoi? C'est-tu d'autres shootouts? C'est parce que tu sais, Josh Allen, là, il a lancé 46 fois pour 400 verges, 2 touchdowns. Je te garantis qu'il ne va pas lancer ça toute l'année. C'est un carrière qui atteint à peine 4000 verges à chaque année. Fait qu'on sait qu'il ne va pas dépasser ça. C'est pas ça le jeu des Bills. Mais si les 2-3 prochains matchs, il lance pour 220 verges puis que Keon Coleman a le tiers des verges, je te dirais qu'on commence à s'exciter solidement. Puis moi, j'aimerais voir une régularité dans les targets aussi. Là, tout le monde a énormément de targets dans ce match-là. Il y en a eu 11, c'est vraiment vrai. Débile. Mais Shakir, 9. Palmer, 9. Josh Palmer, 9 targets, Simonac, c'est okay. 9 de trop. Mais tu sais, James Cook, 5, Kincaid, 4. Fait au final, moi, j'aimerais voir une régularité dans les targets. Fait que même s'ils performent moins bien, les targets sont là puis ils semblent relativement libres. C'est intéressant, mais en se fiant juste à des stats, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment tough. Puis le Keon Coleman de l'an passé, c'était un peu Quentin Johnston. Il était sur une lancée d'une coupe de bons matchs d'affilée.
Ouais. Avant de se blesser, il y avait une petite montée en puissance.
Oui, mais tu sais, après ça, c'est tough d'évaluer ça, mais jamais dans cette montée-là, il aurait été tradable. Tu comprends? Tu n'aurais jamais rien eu pour ce gars-là. Ouais. J'ai un peu l'impression que Coleman n'est pas flashy, n'est pas extraordinaire comme White. Je pense que ça va être vraiment long avant d'être capable de le vendre à sa juste valeur, malheureusement.
OK. Très intéressant. Puis, tu sais, on s'entend, la question serait moins difficile à répondre s'il était dans une attaque qu'année après année, il y a tout le temps un ou deux receveurs qui reçoivent la vaste majorité des ballons. Là, on est dans une attaque qui n'a pas vraiment, niveau fantasy, été viable pour aucun receveur de passe. Il n'y a pas vraiment eu de receveur de passe numéro 1, même numéro 2 en fantasy qui ont émergé de cette attaque-là depuis que Josh Allen est le corps arrière. Fait que c'est une belle question parce que il n'y a rien qui nous dit pas que dans les 10 prochaines années de sa carrière, Josh Allen, chaque année, il va avoir un de ses receveurs qui va finir top 20, par exemple. T'sais. C'est pas ça son profil, c'est pas ça. Le data nous dit pas que ça s'en va vers là, mais Josh Allen peut-être va être obligé d'arrêter de courir autant en vieillissant. Il va falloir qu'il lance plus. T'sais. En tout cas, c'est ça aussi la beauté du
fantasy. Par contre, je peux répondre à une question. Coleman joue mieux qu'il a joué l'an passé. Fait qu'au final, tu sais, le talent fois le contexte, ça donne la performance. Le contexte est relativement similaire à l'an passé, mais le talent, pour moi, est plus élevé. Comme on revient toujours à lui, mais Quentin Johnston s'est amélioré. Fait qu'au
le
final,
fameux Quentin Johnston.
Non, mais faut réévaluer le gars. Si au final, le contexte est identique, puis le talent est 5, 10, 15, 20, 30% supérieur, mais maintenant, ce gars-là vaut plus. Mais Coleman, pour l'instant, je pense que la meilleure stratégie, si vous l'avez, si vous avez un gars comme
Exactement. Excellent. Puis, on arrêtera là-dessus, là, parce que j'arrête plus de rajouter. Mais tu sais, Quentin Johnston, après sa première année, de quoi il y avait l'air aussi sur le terrain. Tout le monde, c'était étiqueté boss, dégueulasse, pourri, j'en reviens pas, un choix de première ronde. Ça va vite dans la NFL. On est vite à étiqueter les gars comme des boss. On s'entend, c'est un match, Quentin Johnston. Il n'est pas la réincarnation là, de Randy Moss. Mais un joueur a le droit de s'améliorer, puis ça se peut que le développement d'un joueur, c'est pas linéaire. Il y en a que c'est plus long que d'autres. Malheureusement, dans la NFL, il y a très peu de place pour les gars qui sont pas tout de suite des studs. Bref. Hey, cool, très cool épisode, tout le monde. Puis on va terminer en vous disant ça. N'oubliez pas, on a parlé beaucoup du Patreon qui était un peu un avion qu'on bâtit en plein vol, mais c'est la première saison du podcast. On est encore en train de définir notre identité, de définir la structure. Ça se peut que d'une semaine à l'autre, notre identité comme podcasters, ça se peut que d'une semaine à l'autre, la formule change un petit peu. Mais fait que si vous avez des commentaires, il y a des choses que vous aimez, des choses que vous aimez moins, encore là, je me répète souvent, mais des choses que vous aimeriez qu'on inclue dans notre programmation, laissez-nous le savoir. Ça nous fait toujours très, très, très plaisir d'avoir votre feedback. JP, merci pour tes très savantes analyses. Puis ben bon match ce soir. On est jeudi. L'épisode sort jeudi. On a enregistré ce matin. Fait que bon match ce soir. Bonne deuxième semaine, tout le monde. Bonne chance dans vos poules. Salut!